Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Margot Tedesco, qui est avocate au barreau de Paris depuis 2016 et qui s'épanouit comme collaboratrice au sein du département, parce que peut-être que c'est maintenant un département de droit social, au sein du cabinet Bold. Le cabinet Bold, c'est pas la première fois que vous en entendrez parler sur le podcast, notamment parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a un an maintenant Maître Clarisse Bérébi. C'était ma sixième interview au tout début du podcast, qui est donc associée du cabinet Bold. Et c'est vrai que c'est une interview qui a un peu été un tournant pour moi. En tout cas, j'ai compris les choses comme intervieweuse, et notamment grâce au retour que Clarisse m'a fait suite à l'interview, sur comment elle s'est sentie et sur ce qu'elle avait perçu de ma manière de mener une interview. Et ça m'a beaucoup aidée à mieux comprendre en fait ce qui fonctionnait dans ma manière d'interviewer et à mieux faire mes interviews, en tout cas à poursuivre sur ce qui fonctionnait. Donc c'est vrai que l'interview de Clarisse Bérébi a une place un peu particulière dans mon cœur, non pas nécessairement parce que le contenu est meilleur ou plus intéressant que d'autres, même si j'adore le parcours de Clarisse et je le trouve extrêmement inspirant, mais plus par rapport à mon parcours à moi et comment il m'a fait grandir moi dans le projet Fleur d'Avocat. Tout ça pour dire que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Bold et que je vous invite à écouter aussi l'interview de Maître Clarisse Bérébi. En l'occurrence, je remercie chaleureusement Maître Élise Cointé de m'avoir recommandé d'interviewer Margot. Et Élise est donc bien placée pour constater l'épanouissement et la joie de Margot au sein de Bold, puisqu'elle travaille avec elle. Elle a intégré le cabinet très récemment dans l'équipe sociale aussi, et est donc amenée à travailler quotidiennement avec Margot et à voir à quel point elle s'éclate au sein du cabinet. Un grand merci également à GP Siscar, Valdes et Kylian T. Apple pour vos avis sur le podcast, ça me touche beaucoup. Avant de lancer l'épisode, je voudrais juste vous dire qu'il reste un peu plus d'une semaine pour vous inscrire aux sessions de mars des formations Bien dans ma robe et Confiance en moi. Reste des places, profitez-en. D'autant plus que, et ça c'est une nouvelle récente, Fleur d'Avocat est désormais un établissement de formation. Et les heures de formation que vous pouvez faire au sein de Fleur d'Avocat permettent de valider des heures au titre de la formation continue obligatoire. Donc je trouve que c'est quand même une superbe occasion de vous faire du bien en menant à bien une réflexion utile. En tout cas, manifestement, vu les retours extrêmement positifs que j'ai des premiers clients, et en plus de remplir vos obligations déontologiques, et donc que demander de plus? Je ne vous retiens pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Margot Tedesco.
Bonjour Lila Louise.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci à toi de m'avoir conviée ce soir.
Alors Margot, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate.
Alors en fait, c'est un long cheminement de ma part, c'est pas une vocation que j'ai eue depuis toute petite. En fait, j'ai commencé la fac de droit par un échec, parce qu'à la base, je voulais faire Sciences Po. Donc j'avais fait une prépa privée pendant un an à Paris pour me préparer à ces concours-là. Je les ai pas eus, j'étais sur liste d'attente, mais j'ai pas intégré. Donc l'autre option qui m'a été donnée, c'était de faire autre chose, que j'avais pas du tout envisagé. Donc j'ai commencé la fac de droit.
Et complètement par dépit ou...
Non, j'avais quand même de l'attrait. Je me disais peut-être que potentiellement je pourrais repasser Sciences Po aussi après, derrière, en troisième année après ma licence. Donc pas complètement par dépit non plus. J'avais l'intérêt pour la politique, l'actualité. Donc le droit, c'était quelque chose qui me tentait bien. Donc j'ai commencé la fac comme ça. Ça m'a vraiment bien plu dès le début, mais à l'époque, je m'envisageais pas du tout d'être avocate. Moi, je voulais plutôt travailler dans les carrières européennes, c'est pour ça que je voulais faire Sciences Po. Initialement, c'était pour faire du journalisme, mais après, j'avais un peu dévié sur tout ce qui était carrière européenne. Moi, j'ai commencé la fac en ayant ce projet-là, donc avocat, c'était pas franchement quelque chose que j'avais en tête. Je me voyais plutôt dans les institutions à Bruxelles ou à Strasbourg, ce genre de choses-là. Et puis, petit à petit, j'ai passé les années, j'ai vu que carrière européenne, c'était quand même un peu bouché, donc je me suis plutôt... Les matières de droit privé m'ont aussi bien plu, donc je me suis plus concentrée sur ces matières-là.
Le côté bouché, c'était les profs qui t'en parlaient, c'était enfin, qu'est-ce qui t'avait donné cette
c'était
sensation ?
Effectivement les profs, des gens à la fac qui me disaient qu'il y avait quand même peu de place, c'était donc concours, et puis bon, je venais quand même d'un échec d'un concours que j'avais raté. Donc la perspective de me dire repasser les concours, la fonction européenne, ou tout très bouché, en fait, je me suis dit c'est peut-être pas pour moi non plus. Donc et le droit privé m'a vraiment bien plu, j'ai trouvé beaucoup d'attrait. Dans ce que je faisais à la fac, donc finalement j'ai continué là-dedans et je me suis un peu dit ok, peut-être autre chose, j'étais plutôt droit des affaires, je rêvais pas trop, ça serait plutôt du corporate, etc. Après je suis partie à l'étranger en Erasmus et puis
t'es partie où?
Je suis partie en Norvège.
Ah ben comme mon invité d'hier.
Ok.
Enfin, de l'interview que j'ai fait hier. Norvège ou Suède? Uppsala, en tout cas.
En
voilà.
Suède, du coup.
Ouais, Suède.
C'était mon premier choix que j'avais pas eu. Du coup, j'avais eu Bergen en Norvège. Je voulais vraiment un pays scandinave pour le coup.
Pourquoi tu voulais vraiment un pays scandinave?
Parce que ça représentait un espèce d'idéal pour moi, les pays nordiques, l'égalité femmes-hommes, l'environnement. Je voulais vraiment voir concrètement comment ça se passait, quoi. C'était des pays qui m'avaient toujours fascinée. Et
leur perfection sociale.
Ouais, c'est exactement ça.
Et alors?
Et alors, c'était vraiment bien. J'ai eu une super expérience, mais bon, c'est pas le pays parfait non plus, quoi. Donc, et en plus, moi, j'y étais en 2011. Donc, quand j'ai quitté la Norvège, 15 jours après, il y a eu la tuerie du Toya. Et effectivement, ça m'a pas trop surpris sur certains aspects, parce que notamment sur l'aspect... Enfin, c'est très libre là-bas. Tu vois, les policiers, ils ont pas du tout d'armes sur eux dans la rue, enfin voilà, il y a beaucoup de liberté qui est laissée. J'ai trouvé que c'était, par certains aspects, c'était un peu dans le monde des bisounours. Et en fait, la tuerie du Toya, quand tu vois comment ça s'est passé, un mec qui a pu s'introduire aussi facilement déguisé en flic, etc., ben ça les a un peu confrontés, je pense, à la réalité que peut-être sur certains aspects ils étaient un peu déconnectés de ce qui pouvait leur arriver. Après, ça a été dramatique pour eux, mais je pense que ça a peut-être eu le mérite de leur faire prendre conscience que c'était un petit peu sur leur nuage rose, on va dire. Donc
en tout cas, ça t'a bien plu à certains égards, d'autres...
Exactement. Et ça a un peu... Voilà, j'avais vraiment une image d'Épinal, de la Norvège.
Toi, tu te voyais, par exemple, y rester vivre ou...
Non, pas forcément. Mais je pense que je savais que c'était une expérience et que ça allait m'apporter quelque chose. Puis comme initialement, je voulais faire Sciences Po, je savais qu'à Sciences Po, en troisième année, tu partais à l'étranger. Donc quand j'ai intégré la fac...
Ah donc t'as fait ça en troisième année aussi ?
Ouais, je l'ai fait en licence.
Tu t'es un peu fait ton Sciences Po dans le cadre de la fac.
C'est ça. Rapidement, j'ai un peu abandonné l'idée de faire Sciences Po, de repasser les concours, etc. Parce que le droit m'a vraiment, vraiment plu. Mais j'avais quand même ce projet-là. Je m'étais toujours dit que je partirais à l'étranger. Donc j'ai continué à le faire. Et puis ensuite, je suis revenue donc en Master 1. J'ai fait un Master 1 droit des affaires. Et je me disais que le droit du travail allait me plaire, mais j'en avais jamais fait. Donc, j'avais.
C'était une intuition.
C'était une intuition parce que j'ai une histoire familiale aussi. Mon père est chef d'entreprise, ma mère est assistante sociale, mais elle a été déléguée du personnel, notamment, etc. Donc, j'ai un peu toujours baigné dans, des espèces de, pas conflits salariaux, mais c'était quand même des thématiques dont j'entendais parler régulièrement chez moi au dîner le soir. Et c'était quelque chose qui m'intéressait. Je me disais que potentiellement, c'était un droit qui pouvait me plaire. Donc j'étais en droit des affaires et j'avais vraiment moitié-moitié entre droit des sociétés et droit du travail, puisque je savais pas trop encore vers quel parcours j'allais me diriger. Donc j'avais quand même un parcours master droit des affaires, parcours social, mais j'avais quand même gardé pas mal de matières d'affaires de droit des sociétés au premier semestre pour laisser cette possibilité-là. Finalement, ça m'a bien plu, le droit du travail, donc j'ai vraiment perduré là-dedans. Et en fait, un peu l'élément déclencheur pour moi sur comment je suis venue avocate, il est venu cet été-là, entre le Master 1 et le Master 2. Donc j'ai vu qu'à la fac, il y avait on appelait à la candidature pour participer à la plus grande simulation francophone du Parlement européen, qui s'appelle la SPEC. La fac recrutait des étudiants pour aller participer à cette simulation, donc c'est... Pendant une semaine, en fait, des étudiants recréent le Parlement européen, travaillent sur des textes, votent des amendements, se mettent dans la peau d'eurodéputés. Donc, tu appartiens à un parti politique, tu appartiens, tu fais vraiment une de groupe, tu travailles sur un texte pendant une semaine. Et j'en avais déjà entendu parler de cette simulation, et je savais qu'à Toulouse, parce que moi, j'ai fait ma fac à Toulouse, il y avait des gens qui y participaient, parce que ma voisine à Toulouse avait sa petite sœur qui en faisait partie, donc elle m'en avait déjà parlé. Et étant intéressée par les carrières européennes, c'était un truc que j'avais toujours eu en tête. Et là, un jour, je vois un flyer à la fac sur ça, qu'on pouvait chercher des gens. Donc j'y vais, je vais à la réunion d'information, je me dis, mais c'est génial. En plus, ça allait se passer à Montréal. C'était la 20e édition, donc vraiment,
ça allait être la fête.
Ça allait être vraiment la fête et la folie. Et c'était... Alors, c'est un projet qui a été créé par des Québécois initialement, donc c'est... Il y a, on va dire, beaucoup de participants québécois également, et bah, moi qui avais été aussi attirée par les pays scandinaves.
Le Québec, c'est un autre pays parfait.
Voilà, exactement. Donc je me disais, ah ok, un deuxième pays parfait, les carrières européennes, c'est génial, j'ai vraiment envie d'en être. Donc j'ai postulé, j'ai été prise, donc on était 4 étudiants à être pris à Toulouse. Et donc je suis partie l'été 2011, participer à cette simulation du Parlement européen. À Montréal pendant une semaine, donc on avait travaillé sur les textes toute l'année. Et là, j'ai eu un vrai déclic, en fait. J'ai dû prendre la... Donc, on était 200 participants à peu près. Donc, il y a des discours qu'on fait en assemblée plénière. En plus, nous, on était à l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'instance de l'ONU. Donc, la salle plénière est vraiment très, très impressionnante. Et tu dois faire ton discours de 2 minutes devant 200 personnes qui te regardent. Bien sûr, j'avais énormément le trac au début et j'ai juste adoré ça. Vraiment, j'ai adoré prendre la parole en public. Je me suis découvert vraiment quelque chose que je savais pas que j'avais en moi forcément. Et après, il y a toute la négociation avec la négociation des amendements, puisqu'on amende les textes et on essaie de faire passer nos idées. Donc, t'as ce qu'on appelle la politique de couloir. Tu vas voir les autres des participants. Tu leur dis, non, mais vote mon amendement. Tu vois, ça
différent. Tu fais des alliances.
Exactement. Tu fais des alliances, tu fais la négociation et finalement, t'essaies de convaincre les gens. Donc, c'est un peu le métier d'avocat que je fais aujourd'hui. Et ça, j'ai vraiment adoré cette partie-là. Et je me suis révélée assez à l'aise là-dessus. Et j'étais vraiment moteur dans ma commission, alors que c'était pas quelque chose que je savais que j'avais en moi. Donc là, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, ah ouais, quand même, le métier d'avocat, ça doit un peu s'apparenter à ça. Donc j'avais fait un petit stage en L3, je crois, en cabinet d'avocat chez Fidal à Toulouse. C'était un mois ou 3 semaines. J'avais pas forcément été hyper attirée par l'aspect profession d'avocat qui était très normé, très hiérarchisé, qui n'était pas forcément quelque chose qui m'attirait beaucoup, même si c'était un stage très sympa et que les élèves avocates, notamment avec qui j'étais, m'avaient bien formée. Mais bon, je trouvais que c'était...
Une trop grosse machine, peut-être ?
Ouais, c'était aussi assez gros, même si ça restait Toulouse, la province, donc c'était un peu moins gros que Paris, mais ouais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de codes et l'associé comme si, et tous les niveaux hiérarchiques qu'il peut y avoir dans la profession d'avocat. Bon, je me disais que c'était peut-être pas forcément quelque chose qui m'attirait énormément. Donc, à cette époque-là, j'avais pas forcément vraiment d'appétence pour le métier d'avocat. Mais là, vraiment, avec cette envie, enfin, cette découverte de la prise de parole en public, des aspects de négociation, je me suis dit, ouais, j'ai quand même peut-être envie de faire ce métier-là. Encore une fois, comme j'étais pas trop attirée par le métier suite à ce stage-là, je me suis pas dit c'est absolument ce que je veux faire non plus, mais je me suis dit je veux passer mon CRFPA, avoir mon CAPA et me laisser la possibilité de le faire. D'autant plus que moi, en droit du travail, devant les prud'hommes, t'as pas forcément besoin d'être avocat, donc il y a des DRH qui plaident notamment des dossiers. Donc je me suis dit, même si je suis juriste en droit social, en entreprise, j'aurais peut-être cette possibilité-là aussi, mais bon, si j'ai le titre, donc je me laisse la possibilité. Donc c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Après, j'ai fait mon Master 2. Et à l'issue de mon Master 2, j'ai passé mon CRFPA. Et puis finalement, j'ai fait l'école, je l'ai eu. Et
tes stages, du coup, tes stages plus longs en école que t'as fait à ce moment-là?
Ouais, alors mes stages plus longs, déjà, donc j'ai intégré... Alors moi, j'ai fini mon Master 2. J'avais un stage déjà de 6 mois à faire que j'ai choisi de faire en entreprise. J'étais au sein d'une direction des ressources humaines dans une SS2I et là ça m'a vraiment beaucoup plu parce que j'ai touché à plein d'aspects.
T'as dû retrouver les discussions, les trucs liés aux discussions qu'avaient ton père et ta mère.
Ça m'a vachement plus parlé du coup quand on a parlé de comité d'entreprise, de délégué du personnel, etc. C'était ouais, tout à fait ça, les problématiques avec les salariés. J'ai vraiment beaucoup appris dans ce stage-là. C'était un stage très, très formateur pour moi. Et comme j'ai pas tout de suite passé mon CRFPA après mon Master 2, je voulais le passer un an après. Au final, je suis restée un an dans cette entreprise. Et donc, j'étais vraiment totalement intégrée dans la direction des ressources humaines.
Comme stagiaire ou comme juriste ?
Comme stagiaire. J'ai fait 2 stages de 6 mois, du coup. Et j'ai beaucoup été formée par la DRH, qui était ma maître de stage, qui m'a... vraiment beaucoup appris, qui m'a laissé aussi beaucoup d'autonomie. J'ai pu participer à des réunions avec le CHSCT, j'ai pu faire des formations avec la médecine du travail que j'animais moi, il n'y avait même plus la DRH, donc c'était vraiment une super expérience. Mais j'avais l'objectif de passer mon CRFPA et quand même d'avoir ce fameux titre. Et donc après, une fois que j'ai intégré l'école, bah, j'avais en fait quasiment jamais eu d'expérience en cabinet d'avocat, mis à part...
T'avais eu cette... je sais, est-ce qu'après cette année dans cette entreprise, on t'a fait une offre de rester?
Ouais, bah, ouais, potentiellement, ils auraient voulu que je reste, mais... Ouais.
Mais t'avais envie que... de te laisser cette porte ouverte.
Ouais, et puis, elle le savait, donc je travaillais avec deux personnes, la responsable des ressources humaines de tout le département sud-ouest et la chargée des ressources humaines, on était une équipe de trois, on s'était vraiment très bien. Mais elles savaient toutes les deux que j'avais ce projet-là, et elles m'ont... Surtout Pascal, qui était la RH, qui était ma maître de stage et qui m'a beaucoup appris, qui se doit beaucoup de choses aujourd'hui, même dans ma carrière, savait que c'était ce que je voulais faire. Et elle m'a dit, bien sûr, moi, ça me brise le cœur. J'aurais voulu que tu restes ici, mais pour toi, c'est bien. Je pense qu'il faut que tu le fasses et je te vois bien dans ce métier-là aussi. Donc, accomplis-toi et fais-le. Et on te souhaite toute la réussite possible. Et je suis encore en contact avec eux, avec elle de temps en temps. Et on s'écrit régulièrement, même sur des aspects professionnels, etc. Donc j'ai vraiment une vraie relation avec elle aujourd'hui, alors que c'était en 2013 maintenant, donc ça me paraît vraiment loin. Et donc j'avais vraiment pas de stage significatif quand je suis rentrée à l'EFB, j'avais pas de stage significatif en cabinet d'avocat. Je me suis dit, ça risque peut-être un moment de poser problème, donc j'ai fait l'école en alternance en fait. Donc j'étais le matin j'étais à l'école et l'après-midi j'étais dans un cabinet d'avocat.
Dans quel type de cabinet ?
J'étais avec un avocat qui était tout seul. Donc qui venait de créer son cabinet depuis un an et demi, mais en fait qui avait d'abord travaillé comme avocat, ensuite il avait été DRH et directeur des relations sociales d'un grand groupe, ensuite il avait été consultant en ressources humaines, et là il venait de monter son cabinet. Donc son parcours me plaisait aussi parce qu'il avait vu le côté entreprise, et que je me disais, bon, c'est bien pour une première expérience avec un cabinet d'avocat, il a un peu une expérience moins classique, on va dire, qu'un autre cabinet.
Et tu l'avais rencontré par le biais de ta précédente expérience dans cette boîte ou juste
non,
en...
Non, j'avais postulé sur Villa Justice.
Ouais, et voilà. Donc un peu un hasard.
Exactement, un hasard total. Et j'ai passé un entretien et ma prise. Donc, surtout que j'avais pas franchement prévu faire l'alternance. Je me suis un peu réveillée quand j'ai eu mes résultats du CRFPM mi-décembre en me disant serait peut-être pas mal que je fasse une alternance. Et j'ai postulé en une semaine, je pense, j'ai trouvé ce stage-là. Donc...
Et comment s'est passée cette alternance? Est-ce que ça a été intéressant, du coup, son approche
Ouais, bah, c'était assez intéressant et c'était bien parce que j'étais juste avec une personne, donc aussi pour me familiariser avec le métier, c'était vraiment intéressant. La spécificité, c'est qu'ils faisaient beaucoup de conseils, notamment en restructuration. On faisait beaucoup de plans licenciement économique collectif parce que notamment du fait de son ancien passé de consultant, c'est par ce biais-là qu'il avait beaucoup de dossiers. Donc je faisais quand même vraiment majoritairement des restructurations avec lui. On avait un petit peu de conseils au quotidien, mais vraiment plutôt peu. On avait très peu de contentieux aussi à l'époque. Donc c'était bien, intellectuellement, c'était assez stimulant, parce que c'est des dossiers qui sont vraiment techniques. Donc ça me plaisait bien, il me formait bien, donc j'étais assez satisfaite. Il m'a fait une proposition de potentiellement revenir faire mon stage final et de m'embaucher comme collab après derrière. Ce que j'ai refusé à l'époque, parce que j'avais envie de voir autre chose en fait, et qu'il avait un secteur d'activité qui était quand même très restreint. Les restructurations, c'est aussi très spécifique et ça peut aussi être un peu lourd parfois. Je voulais vraiment voir autre chose, donc à cette époque-là, je lui dis que
non, merci. Voilà. Mais merci beaucoup, mais non.
Exactement, mais l'histoire n'est pas finie là. Donc après, j'ai fait mon PPI dans un syndicat, à la CFTC, le syndicat des transports. Je voulais vraiment aller dans un syndicat. C'était vraiment mon objectif de passer de l'autre côté. Être côté salarié, voir comment ça se passe, la négociation collective, un peu avec toujours cet attrait que j'avais découvert de négocier des choses, comment les conventions collectives sont négociées en pratique, etc. Donc j'avais fait des candidatures spontanées, j'avais été pris dans quelques syndicats, j'avais choisi celui-là.
Pourquoi celui-là en particulier ?
Parce que, en fait, c'était quand même un gros secteur. Donc, c'est les syndicats, si tu veux, c'est organisé. Tu as la confédération en haut. Ensuite, tu as les fédérations par type de secteur, on va dire, qui regroupent plusieurs conventions collectives. Ensuite, tu vas avoir l'union régionale, l'union départementale, etc. Donc, moi, c'était une fédération, ce qui était déjà un niveau qui était assez gros. Et la fédération des transports regroupait beaucoup de conventions collectives. Donc, la convention collective des transports, bien sûr. Tout ce qui était transport routier, aérien. Il y avait aussi les pompes funèbres. Il y avait le ferroviaire un tout petit peu, donc il y avait vraiment un
énorme
panel.
T'avais envie de te compliquer la vie, quoi.
Exactement. Je me disais, tu vois, c'est des secteurs, les transports, où ça bouge, où il y a des trucs, il y a des négociations, t'entends les transports routiers, l'Olympique social en Europe, etc. Et la personne que j'avais rencontrée, donc qui a été mon maître de stage après, le secrétaire général, il avait quand même eu un peu une carrière syndicale qui était intéressante. Je sais qu'il avait eu des arrêts qui m'avaient dit que lui, il avait été à l'origine d'une jurisprudence que moi, j'avais appris en cours, qui est un peu fondatrice en droit social. Donc vraiment, je me disais, ok, c'est un mec qui a l'air quand même de connaître un peu le juridique, donc je vais quand même avoir quelqu'un qui va un peu m'orienter par rapport aux autres endroits où j'avais pu être prise ou avoir des pistes. Et j'avais la possibilité de plaider aussi. Ils m'ont dit, tu pourras plaider chez nous. Donc je me disais, ok, j'ai vraiment un large panel, donc j'ai choisi d'aller là-bas pendant 6 mois. Et j'ai plaidé effectivement 7 fois, toute seule, ce qui normalement n'était pas possible, puisque tu peux pas plaider tout seul quand t'es élève avocat, stagiaire, mais personne n'a jamais demandé vérification de mon titre. Donc voilà.
Donc c'est passé.
C'est passé. Aucun confrère ne m'a jamais rien demandé, donc je me présentais comme la juriste du syndicat et j'avais un pouvoir... Et je plaidais, donc c'était mes premières expériences de plaidoirie, c'était comme ça en fait, mais en tant qu'élève avocate en PPI, donc c'était comme ça que j'ai appréhendé.
Ça t'a confirmé dans cette vibration
Ouais, ça m'a totalement confirmé. Là vraiment, je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que je veux faire.
C'est l'avocat plaidant, droit social, plaidant.
Ouais, c'est ça.
Donc par rapport à la restructuration, ton expérience en restructuring... Du coup, moins quoi.
Ouais, c'est ça. J'aimais bien aussi le conseil. Donc, je faisais pas que de la plaidoirie, je faisais pas que du contentieux. J'avais aussi tout le conseil aux adhérents, parce qu'on était un peu une hotline juridique, si tu veux. Donc, les adhérents de la CFTC peuvent nous appeler sur toutes leurs questions juridiques. Donc, il y avait ça aussi qu'on faisait. Ensuite, j'allais en négociation. Alors, au niveau national, les négociations des conventions collectives. Donc, j'allais au ministère du Travail avec les délégués syndicaux de la CFTC. On allait négocier des accords. Donc, moi, bien sûr, j'étais juste spectatrice. Et j'ai aussi eu des négociations que j'ai menées moi-même au nom de la CFTC. Donc toujours pareil, je t'ai présentée comme la juriste qui arrivait.
C'est fou parce que ça revient vachement. Enfin, que ce soit dans ton stage pendant un an dans cette boîte, dans la direction des ressources humaines.
Ouais.
Ensuite, j'ai l'impression que tu as été très responsabilisée aussi quand tu étais dans ce cabinet où tu faisais du restructuring. Pareil, là dans ton PPI, il y a un truc que tu dois dégager en termes d'autonomie et de c'est bon, je gère, parce que, enfin, c'est... Ouais, ouais. Il doit se passer un truc quand même.
Bah écoute, je suppose, mais c'est vrai que ça a toujours été le cas, j'ai toujours été assez responsabilisée. Après, j'étais dans des structures qui me l'ont permis aussi, je pense qu'à chaque fois, j'étais dans des petites équipes, des petites structures, et ben voilà, j'ai apporté une compétence et quelque chose, donc ils m'ont rapidement laissé la main, ce qui a été une chance aussi que j'ai eue de la part des personnes avec qui j'ai travaillé. Mais ouais, ça m'a vraiment confortée dans ma volonté de faire ce métier-là, d'être avocate, et j'avais l'aspect contentieux, conseil, j'avais un peu tout, donc c'était vraiment bien, ça m'a vraiment bien plu, j'ai beaucoup appris pendant 6 mois, et puis je me suis aussi, familiarisée avec la plaidoirie, sans avoir beaucoup, beaucoup d'enjeux non plus, parce qu'en fait, si moi j'allais pas plaider, parfois il y avait personne qui y allait, ou parfois on m'envoyait juste parce qu'il y avait des intérêts un peu plus politiques que juridiques, il fallait y aller.
Il fallait montrer qu'on y était, ouais.
Exactement. Et j'avais moins de pression aussi si la plaidoirie se passait mal ou si juridiquement. Et puis, de toute façon, on me disait, c'est mieux que ce soit toi qui y ailles plutôt que l'un d'entre nous. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre comme ça. Après, ça a été un peu compliqué aussi sur mes premières plaidoiries, dans mes rapports avec les juges, avec les confrères. J'ai vraiment vu que, sans la robe, en fait, t'étais quand même vraiment moins considérée. Ce qui m'a un peu frustrée au début, j'étais mais je pouvais pas dire que j'étais élève avocate parce que sinon je me grillais totalement et j'avais pas normalement la possibilité de plaider, mais ouais, j'étais un peu prise de haut par des confrères, par des magistrats et là je me suis dit ok.
Vaut mieux faire ça mais avec la robe.
Exactement. Mais ça m'a aussi, je me suis dit, j'imagine pour les délégués syndicaux, puisqu'il y en a qui plaident, ils peuvent plaider devant les juridictions prud'homales. Je me suis dit, c'est quand même délicat pour eux, parce qu'en fait, c'est quand même des gens qui, en plus de leur métier, font ça, viennent défendre des gens ou des causes, et en fait, ils sont quand même vraiment mal considérés. Alors, c'est quand même un investissement, c'est des gens qui sont pas juristes. Moi, mon maître de stage, il était chauffeur routier à la base, donc je te laisse imaginer quand même le travail et le mérite qu'il avait de faire tout ça. Il me disait, moi, ça m'est arrivé des milliards de fois, Margot, de juste être mal considérée par les confrères, par la juridiction, et... J'ai trouvé que c'était un peu injuste aussi, donc c'est vrai que maintenant j'ai un rapport aussi quand parfois, moi en social, j'ai un défenseur syndical en face, parfois ils sont pas hyper bons techniquement, ils sont pas tout ça, mais bon, ils défendent une cause et ils le font comme ils peuvent le faire, donc
ouais.
Ils méritent aussi un certain respect que j'ai pas toujours eu, moi, et que j'ai pas toujours vu.
Quand t'étais à cette position-là.
Exactement.
Et vient le temps de ton stage final.
Ouais, donc mon stage final, je vais dans un cabinet de niche en droit social, puisque du coup je voulais me diversifier. clientèle à 80% anglaise, donc je voulais aussi travailler en anglais. Il y avait du conseil, du contentieux, petite structure, une dizaine à peu près, deux associés. En fait, très rapidement, quand j'arrive là-bas, il y a des collaborateurs qui annoncent qu'ils vont partir au bout de 6-7 mois, parce qu'ils ont un projet, deux collaborateurs, ils ont un projet personnel. Moi, ça se passe assez bien. Tactiquement, je pense qu'ils voient que ça se passe bien dans mes premières semaines de stage. Donc, au bout de 3 semaines en moins, on fait une offre de collaboration. Donc, moi, j'étais là, bah, en même temps, tout se passe bien ici. C'est un peu... Moi, c'était parfait. Il y avait du conseil, du contentieux en anglais, une petite structure. Moi, je voulais pas une énorme structure non plus. Donc, je me suis dit, ok, génial. Puis bon, tu vois, quand on te fait une proposition au bout d'un mois, c'est genre là, attends, c'est cool, j'ai ma collab et tout. Donc j'accepte, quoi. On se dit que, ok, génial. Donc, rapidement, en fait, je commence un peu à avoir des dossiers vraiment plus pointus. J'ai vraiment beaucoup de responsabilités dans le cadre de ce stage. Malheureusement, j'ai un peu des difficultés avec la collaboratrice senior qui un peu me manage, on va dire.
Qui, pour le coup, elle reste.
Ouais, qui elle reste, pour le coup, qui a 5-6 ans de barre à l'époque, je pense, qui est l'une des plus capées, du coup, du cabinet en dessous des associés. Moi, je travaille vraiment en direct avec les associés sur certains dossiers, et notamment sur certains dossiers un peu sensibles, notamment médiatiques, etc. Parce que je fais des recherches, etc. Et comme je raisonne bien, bah, il m'inclut aussi un peu dans la chose. Donc bref, normalement, elle avait un peu la main sur les stagiaires de manière générale, et... Je sais pas, en vrai je peux pas définir comment elle a pensé, elle l'a perçu. Le fait est que ça se passe pas hyper bien entre nous. On a des petites tensions, des petites frictions, et en même temps moi je me dis bah enfin moi j'ai quand même ma collab, donc je comprenais pas pourquoi parfois elle me faisait certaines remarques, certains reproches que je trouvais un peu disproportionné, comme si bah vraiment ce que je faisais était vraiment pas terrible en termes de travail, alors que bon.
Alors que d'un autre côté, t'as les associés qui te font travailler en direct et qu'on l'air hyper contents.
Exactement. Donc j'avoue que parfois j'avais un peu du mal à saisir et à me positionner. Donc voilà, on a un petit accrochage. Du coup, bah les associés, je me fais un peu convoquer, on m'explique que bah, dans la profession d'avocat, il y a quand même plein de niveaux hiérarchiques et qu'il faut que je les respecte. Donc en gros, moi je suis en bas de l'échelle, tu vois, il y a le stagiaire, après il y a le collaborateur junior, après il y a le mid-level, après il y a le senior, après
même
il y a le
dans une équipe de 10 personnes.
Exactement.
C'est ridicule.
Donc là, je me dis, ok, bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je reste à ma place et que je brûle pas les étapes et que je me fasse petite et que voilà. Sachant qu'il n'y avait pas d'assistante dans ce cabinet, donc en plus de mon boulot qui était quand même assez conséquent, puisque j'avais des missions qui étaient proches de celles d'un collaborateur, je faisais ben, la poste, le standard, enfin tout le reste, quoi, vu qu'il n'y avait pas d'assistante, c'est moi qui faisais tout, parce que j'étais la seule stagiaire. Donc bon, j'étais là, ok, ça m'a mis un petit coup, on va dire. Je me suis dit, d'accord, bon, ben, c'est vraiment ça, la profession d'avocat. Ça m'a un peu ramené à l'image que j'en avais initialement. Mais bon, le boulot me plaisait, et j'étais quand même satisfaite, et bon, il y a mon évaluation de mi-stage qui arrive, et là, on met des choses sur mon évaluation de mi-stage par écrit, que je trouve un peu injustifiée, du genre, voilà, Margot doit bien s'assurer d'avoir fini tous ses dossiers avant de partir le soir, comme si je partais, tu vois, en laissant mes dossiers en plan. Je trouve ça pas hyper justifié, donc en fait je comprends qu'on est en train de me dire, suite à tout ce qui s'est passé, que il faut que je reste quand même un peu à ma place, et que je suis juste là, stagiaire, et que j'ai encore à apprendre, donc bon, ça me met quand même un petit coup.
Qu'on essaye de dire que c'est pas parce qu'on t'a fait cette offre de collab que c'est gagné, et que...
Exactement. Sachant qu'à ce stade, rien n'était signé, donc bon, voilà. Et moi je me dis, ok, je commence un peu à me poser des questions, à me dire, est-ce que je veux vraiment rester là? Et puis, il y a d'autres collaborateurs, donc je m'entendais assez bien avec les autres collaborateurs. Donc déjà, il y avait les deux qui partaient. Puis, il y en a d'autres qui commencent à se poser des questions aussi de partir. Donc, je me dis, ok, en fait, finalement, l'environnement qui est là à un instant T, peut-être dans 6 mois, il sera plus celui-là. Donc le fait est que je chemine et que je me dis, en fait, je peux pas rester là. Enfin, je me sens pas de rester là. J'étais quand même un peu stressée avec la collaboratrice senior. Ça se passait pas hyper bien, c'était pas optimal non plus. J'étais pas très sereine. Et on m'avait expliqué lors de ce fameux entretien que c'était quand même avec elle que j'allais principalement travailler. Donc je me dis, ouais, je me le sens pas en fait, je suis pas sûre que ce soit ça, aussi intéressant soit les dossiers, aussi tout ça. Donc je me décide, dans ma tête, je me dis, ok, je vais aller ailleurs, je commence un peu à regarder. Et puis j'avais été recontactée par mon ancien maître de stage de là où j'avais fait l'alternance.
Donc le restructuring.
Voilà, le restructuring qui... j'avais déjeuné avec lui un peu après l'épisode de la convocation, qui me dit que... Ou juste un peu avant, peut-être. Ouais, c'est un peu avant qu'il m'avait dit qu'il allait rechercher, recruter un collab. Et du coup, il me demandait si moi, j'étais à l'écoute. Et à cette époque-là, je lui avais dit, bah non, je pense rester là où je suis, parce que c'était vraiment l'optique dans laquelle j'étais. Et là, je me dis, bah en fait, c'est peut-être un peu bête, j'étais quand même pas trop mal là-bas, j'étais bien formée. Et il m'avait dit, lors de ce déjeuner, qu'il avait beaucoup diversifié son activité, qu'il avait rentré du contentieux, il avait une boîte qui rentrait en contentieux, qu'il en avait tous les mois, et que lui, ça lui plaît pas énormément, le contentieux, donc il lui faut un collab pour traiter ça. Donc, moi, c'était un des aspects qui me manquait chez lui, donc je me dis, ah ouais. Donc là, je repense à tout ce déjeuner, je me dis, ah, quand même, c'est un peu bête et tout, j'ai quand même laissé passer cette opportunité. Bon, je me mets à regarder sur Villa Justice un peu ce qu'il y a, et là, je vois qu'il a posté une annonce pour recruter un collaborateur. Donc c'était quand même plusieurs mois après notre déjeuner, il l'avait pas fait tout de suite. Et moi je venais de me dire, ok, je peux pas rester là où je suis, c'est juste pas possible. Donc là je le rappelle et je lui dis, allô, c'est moi en fait finalement, peut-être que j'ai changé d'avis. Et là il me dit, bah oui mais Margot tu m'avais dit non, donc moi j'ai lancé un process de recrutement, donc écoute, je vais aller au bout de mon process de recrutement, mais bon, je te tiens au courant, etc. D'accord, j'entends que t'es à l'écoute, bref. Bon, finalement, effectivement, il me fait une offre et il me dit, ok, enfin, si t'es ok, moi, je t'embauche en tant que collaboratrice libérale. Et moi, je me dis, j'avais besoin de quelque chose qui me rassurait, je pense, à ce moment-là. Et je me dis, ok, ça peut être bien pour une première collaboration. Je sais que je vais quand même avoir un peu de liberté avec lui. Je sais ce que je rejoins.
Donc, t'y vas pas en te disant que c'est la collab de ta vie. T'y vas, ça te rassure, tu le connais. Il t'a rassuré en te donnant des petits mots-clés contentieux, petits trucs qui vont bien. Et donc, tu te dis, bon, je peux faire rentrer mon projet dans le sien, quoi. Je vais un peu faire forcer le truc, mais je pense que ça peut rentrer.
C'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça. À l'époque, j'étais peut-être pas consciente de tout ça, mais ouais, ça me rassurait, je le connaissais. Puis on était sous-locataire dans notre cabinet en droit social, donc qui était en train de prendre des nouveaux locaux, j'allais avoir un bureau à moi, un truc moderne et tout. Donc il m'avait bien vendu le truc et j'étais contente d'aller là-bas, j'étais vraiment contente. Donc, je commence ma collaboration chez lui. Ça se passe bien. Effectivement, il y a du contentieux. Donc, moi, c'est cool. Je suis contente. C'est moi qui fais le contentieux. C'est une grosse boîte, en plus. Donc, on est troisième avocat de la boîte. Hein. T'imagines que nous, à deux, bon, voilà, on récolte les miettes. Mais quand même, c'est moi qui les plaide. Donc, je mets la robe pour la première fois, hein, ce coup-ci.
tu es considérée quand tu plaides.
Exactement. Je suis considérée quand je plaide. Donc voilà, on a quand même encore du restructuring, mais on en a peut-être 50-60%. Tu vois, on a aussi du conseil au quotidien. On fait aussi du salarié, puisqu'il a des salariés plutôt cadres de haut niveau qui se font sortir ou qui négocient leur départ. Donc on fait aussi ça. Donc voilà, ça se passe bien, on va dire. J'ai plutôt de la flexibilité dans mon travail avec lui. Je m'entends bien avec lui au demeurant, donc c'est plutôt cool, plutôt
rassurant. Je sens qu'il y a un loup quelque part. Je sens venir le mais.
Et puis au bout d'un moment, je pense que ça a sa fin parce que en fait au final, comme tu l'as pointé, je pense que c'était peut-être pas foncièrement ce dont j'avais envie. Donc ça m'a rassurée au début. Et j'étais satisfaite d'être là-bas parce que c'était quelque chose que je connaissais, qui m'a rassurée. Mais au bout d'un moment, y avait quand même pas mal de restructuring et c'est quand même un peu lourd de faire des plans de licenciement économique toute la journée. Donc je m'y retrouvais peut-être pas forcément. Et puis voilà, il y a eu un élément déclencheur, un entretien annuel de fin d'année où je suis pas augmentée comme je souhaiterais l'être. Et ça me fait un peu me poser la question de dire, ok, pourquoi je suis ici, en fait, au-delà de l'argent qui n'est pas forcément quelque chose qui me fait... Je cours pas forcément après ça, mais c'était quand même quelque chose que j'avais en considération. Je me rends compte qu'en fait, je suis venue là par confort plutôt, que le travail me plaît, mais en fait, il commence à avoir de moins en moins de dossiers parce que certains interlocuteurs qu'on avait sont partis au sein de nos clients. Donc du coup, il y a de nouvelles juristes en droit social souvent qui arrivent, qui sont des anciennes avocates et qui essaient de placer leur cabinet. Donc ben nous, on sort. Donc on sort de chez le client progressivement. Donc les quelques dossiers qu'on avait, on sort de plus en plus. Donc on a de plus en plus de restructuring du coup. Le contentieux.
Ce qui explique aussi, je suppose, pourquoi il pouvait peut-être pas tout augmenter comme tu voulais.
Peut-être aussi, effectivement, parce que les chiffres étaient bons, mais pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu espérer. Donc du coup, là, je me pose et je me dis, en fait, le restructuring, non, ça me fait pas vibrer. Si j'ai moins de contentieux, voilà, ça, c'est quand même une partie qui me plaît. Et je voyais qu'on en avait de moins en moins et qu'on avait vocation à plutôt en avoir moins que plus. Donc, Je me dis, bon, ok, je sais pas trop combien de temps je vais rester encore là. Donc je me dis dans ma tête, bon, je vais partir dans quelques mois, mais je vais attendre. On était deux, donc je voulais pas non plus trop le planter tout de suite. Et puis, puis en fait, je commence. Donc j'envoie, c'était donc en janvier 2018. J'envoie mes vœux, notamment à mes anciens maîtres de stage de mon stage final. Et là, ils me proposent de déjeuner avec eux, etc.
Donc le cabinet où ça s'était pas si bien passé.
Voilà. Sauf que en fait, tout le monde avait quitté le cabinet quasiment. Donc la collaboratrice senior avec
donc
laquelle...
toi, t'envoies tes vœux par politesse,
exactement,
confraternité et tout ça, ce que je comprends tout à fait. Et tu ils se jettent sur ta carte en se disant oh là là, quelqu'un qu'on connaît parce qu'ils sont désespérés, tout le monde est parti.
Ouais.
Tu y vas.
C'est ça. Alors, ils sont désespérés, en fait, le truc, c'est que les collabs qu'ils avaient étaient arrivés un peu au bout d'un cycle, et je pense qu'ils étaient assez autonomes, donc il y en a pas mal qui ont monté leur cabinet, qui avaient d'autres projets, ils avaient recruté plein d'autres personnes, mais voilà, je pense qu'effectivement, ils se disent « Ah, Margot, attention, nous, on a des embauches à faire en ce moment, voyons voir où elle en est ». Donc, on se recontacte, on fait un déjeuner, et puis là, ils me disent, en gros, qu'ils cherchent, et moi, je me dis, bah, dans ma tête, je sais que je vais partir à un moment donné de là où je suis, et là, ils me disent « Bah non, on cherche pour bientôt ». Donc je me dis, moi j'avais pas prévu partir aussitôt, mais donc dans ma tête je me dis en même temps, c'est vrai que les dossiers c'est intéressant, tout le monde a été renouvelé, donc j'ai plus la problématique de la personne avec qui ça se passait mal, je m'entendais bien avec les associés, donc après il y avait quand même eu tous les discours, mais bon, je me dis, je peux m'y épanouir peut-être, donc je me dis un peu avec facilité, pourquoi pas repartir là-bas, et puis plutôt quitter plutôt le cabinet où je suis que ce que je pensais. Bon, j'en parle avec mes parents, notamment ma mère, qui me dit « c'est peut-être un peu facile
de naviguer d'endroit en endroit, voilà, au gré des propositions qu'on te fait ».
Exactement, et de pas vraiment chercher, parce que j'ai jamais cherché de manière trop proactive, ni une collaboration, ni des stages, enfin, j'ai quand même jamais eu trop de difficultés à trouver. Donc je me dis « ok, regardons quand même sur Villa Justice qu'il y a, pourquoi pas, voilà ». Puis là, à ce moment-là, je vois passer une offre, enfin, un message sur le groupe Facebook de ma promotion, l'EFB, quelqu'un qui poste cabinet bold, clientèle de start-up dynamique, recherche collaborateur en droit social, 0-3 ans. Là, je me dis, c'est quoi ce cabinet, genre, clientèle de start-up, attractif, droit social? Ouais, on connaît quand même un petit peu les cabinets en droit social sur Paris. Je me dis, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ce
inconnu
cabinet.
Inconnu au bataillon.
Qu'est-ce que c'est que ce cabinet? Donc là, je regarde et je me rends compte qu'en fait, donc c'est un cabinet qui est issu de la scission du coup de 1134. Et en fait, en 1134, j'en avais entendu parler par mon ancien boss, donc celui que j'étais sur le point de quitter, parce qu'il avait un de ses amis qui était un des associés du cabinet.
Et qui faisait l'autre côté de la scission?
Et qui faisait l'autre côté de la scission. Exactement. Donc, ce que je savais pas à ce moment-là. Donc là, je me rends compte que c'est la scission et je me dis, mais est-ce que son ami est dedans? Enfin, bref. Et j'avais entendu parler de 1134 à l'époque. Et déjà, quand lui m'en avait parlé, ils avaient un peu une autre approche. Ils travaillaient déjà dans le milieu start-up. J'avais trouvé ça hyper intéressant comme approche du cabinet d'avocat. Surtout que j'avais quand même déjà un peu cet aspect que la profession d'avocat, je la voyais comme quelque chose de pas très moderne, d'un peu, rigide, et je me disais, un cabinet qui innove, donc c'était un cabinet quand même que j'avais un peu en tête, mais à l'époque, je savais pas qu'il faisait du social, rien du tout, j'avais pas du tout ça en tête, donc c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé, et donc là,
tête en termes de positionnement plus qu'en termes de pratique.
Exactement, ouais, en termes de ce qu'ils dégageaient, ce qu'ils faisaient, leur
site internet. De marque employeur, d'image, de com.
Exactement. Donc, je vois que c'est la scission, donc bol, nouveau cabinet, nouveau projet, je vais voir le site, waouh, c'est génial ce truc, c'est quoi?
C'était déjà tel qu'il est aujourd'hui, ouais, avec les grosses cases.
C'était déjà tel qu'il est aujourd'hui, hein. Je me disais, génial, enfin tu vois, un site comme ça.
C'est vrai qu'ils claquent leur site.
Ouais, par rapport à tous les autres cabinets que je pouvais voir sur Villa Justice, là je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc j'écris à la personne qui avait posté sur le groupe Facebook, et je lui dis, juste pour me renseigner... Donc, est-ce que l'associé, du coup, que connaissait mon boss, fait toujours partie de bol? Je comprends que c'est une scission. Elle me dit non, t'inquiète pas, elle est plus dedans. Parce qu'effectivement, pour moi, je voulais pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mon boss actuel.
C'est clair. Et le message que t'as dû rédiger avec des pincettes, des gants en soie.
Exactement.
Le tourner de manière bouffe.
J'étais juste en train de me renseigner.
Et est-ce que ça peut rester entre nous? Je voudrais juste me renseigner, parce que vraiment, je ne cherche absolument pas de collaboration. Mais...
si jamais, éventuellement, tu pouvais m'en dire plus. Et donc, la collaboratrice me dit, non, aucun souci, mais du coup, pourquoi? T'es intéressée? Je lui dis, bah, ouais, ça a l'air top, donc bref. Et là, elle me dit, bah, vas-y, on recherche, envoie-moi ton CV, ta lettre de motif. Donc, j'avais lu le poste le matin, tu vois. À midi, je lui envoie mon CV, ma lettre de motif, je pense. Une demi-heure après, genre, l'associé qui m'écrit, OK, est-ce que vous avez des dispos, on peut se voir, machin. Et je lui dis, oui, ben, genre, à partir, je sais pas, je lui donne mes dispos. Et en fait, il me dit, OK, ce soir, 19h. Donc là, moi, j'étais pas du tout dans l'optique ni de postuler, ni rien de... Mais c'était juste l'offre parfaite, tu vois, Bold. C'était un cabinet qui innovait, qui avait une clientèle de start-up, qui était en train un peu d'essayer de révolutionner la profession. Moi, c'était des choses auxquelles j'étais vraiment sensible. Donc je me dis, go, enfin, tu vois, c'est genre, c'est un signe, quoi. C'est vraiment... Puis ça faisait suite à la discussion avec ma mère qui me disait, c'est un peu facile si tu retournes dans l'ancien cabinet. Et je me dis, là, franchement, c'est... Il faut que j'y aille, quoi. Donc j'y vais, je passe l'entretien le soir à 19h. Vraiment, ça se passe hyper bien, bon feeling. Et en fait, bah, le lendemain, ils me disent que je suis pris. Et l'après-midi, j'annonce à mon boss que je démissionne. Donc, ça s'est fait comme ça en 48 heures. Donc,
c'était... Et comment il a pris ton boss que t'ailles chez les... le fœtus, l'avortement non amical de
On sent... On sent 34. Ouais. Ben... Sur le moment, il m'a dit, mais bah, déjà, il a pas compris comment ça s'était fait aussi vite, etc. Et il a un peu mal pris, effectivement, sur le moment. Enfin,
ton entretien était donc déjà passé parce que tu avais déjà eu cette discussion sur ton augmentation qui t'avait fait poser des questions.
Exactement, c'était un mois après. À peu près.
Donc rapide, quand même.
Voilà.
Action-réaction, quoi.
Exactement.
Pas d'augmentation, je réfléchis pendant 3 jours.
En fait, tout s'est aligné, on va dire. Ça a été tout un... concours de circonstances, mais c'est un peu tout le temps ça dans mon parcours, c'est un peu des petits éléments déclencheurs qui se mettent sur ma route et qui me font prendre des chemins, et là c'est juste que c'était aligné à ce moment-là, et dans ma tête la réflexion était faite, mais je me disais plutôt que j'allais quitter au moment de l'été, tu vois, donc j'avais pas du tout prévu partir là, et je pense qu'il a été très surpris quand je lui ai annoncé, il m'a dit oui, j'avais bien vu que bon, t'étais un peu pas tout à fait satisfaite à la fin de l'année, mais bon, je me disais que t'allais te remettre dedans, etc., donc... Ouais, il a un peu mal pris, forcément, et puis on était deux, et j'étais partie de chez lui, j'en étais revenue pour repartir un an et demi après, donc, bon, il m'a dit, mais tu savais ce que tu rejoignais aussi, et je te l'ai jamais caché, je veux dire restructuring, etc., bref, après, bah, je pense qu'il a compris que
ça,
j'avais deux envies.
Ça, je pense à ma première
collab. Ouais.
Ouais, ouais, ou pareil, alors moi j'avais pas été en stage, mais où ils avaient été, enfin, il avait été très transparent sur le fait que c'était... une majorité de conseils et une minorité de contentieux. Et moi, j'avais fait rentrer ça dans mon... Tu vois, pareil, j'avais un peu forcé. Je pense que je voulais vraiment trouver un taf et j'avais peur du vide dans mon CV et tout ça. Et du coup... Et en plus, il avait été chaleureux. Enfin, l'entretien s'était bien passé, tu vois. Et j'avais un peu mis sous le tapis cette histoire de conseils. Et puis, en fait, effectivement... J'ai démissionné et il a dit mais moi je t'ai jamais menti, enfin vraiment les mêmes choses, ouais. Quoi, mais tu savais ce que tu rejoignais, et tu vois, si dans mon parcours y a une chose que je regrette un peu, c'est ça, c'est d'avoir fait comme si oui tout va bien, je viens, et hein, puis en fait non, parce que c'est vrai que c'est un investissement pour les cabinets de te prendre, de te former, de te mettre, ouais, sur les dossiers, de... Et pour eux, c'est du travail de re-recruter. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Ça fait partie de ce qu'on apprend, tu vois. Mais ouais, je vois ce que c'est, ce discours de... Mais cette espèce un peu de désarroi de l'autre côté de...
Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que ça a été un moment un peu compliqué de part et d'autre. Mais moi, c'était acté en même temps que... C'était pas ce qui me convenait. Et je savais que j'allais pas être épanouie là-bas. Et voilà, j'aurais pu y rester, mais c'était clairement pas ce qui me correspondait. J'étais pas satisfaite là-bas, donc je suis partie chez Bold, où je suis actuellement et où je suis épanouie pour le coup.
Et alors, comment ça se passe chez Bold? Parce que donc j'ai reçu au tout début du podcast Clarisse Bérébi,
ouais,
qui pour moi était un vrai déclic dans ma carrière d'intervieweuse dans la manière d'interviewer et tout. Donc c'est un épisode qui m'est cher. Du coup, elle avait parlé voilà du projet à la fin d'interview, de ce que c'était que Bold et du concept d'abonnement illimité et de l'envie de prendre les risques avec les clients et de dépoussiérer la profession. Enfin, voilà, elle avait présenté le cabinet dans son projet entrepreneurial, dans sa vision, dans sa mission. Tu peux en reparler, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes ce que c'est l'expérience collaborateur chez Bold, tu vois. Qu'est-ce qui, sachant que tu rejoins ce cabinet après des expériences en cabinet qui sont pas hyper réjouissantes. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, c'est intéressant, est-ce que tu as préféré tes expériences en cabinet ou tes expériences en entreprise ?
En entreprise.
En entreprise ?
En entreprise et en syndicat, ouais, de très très loin.
Parce que t'avais plus d'autonomie ?
Ouais. J'avais plus d'autonomie, c'était beaucoup moins hiérarchisé, les rapports entre les gens étaient beaucoup plus simples, il y avait beaucoup moins de non-dits. Moi, mon un an en entreprise, qui a été ma vraie première expérience professionnelle dans ce que je faisais, quoi, dans mes études, ça a été très très formateur pour moi, et même encore aujourd'hui, j'ai plein de réflexes de cette époque-là, et ouais, j'ai vraiment adoré cette période-là. J'étais totalement intégrée, il y avait une vraie vie, il y avait une vraie solidarité entre les gens. Moi, je travaillais dans une équipe de 3, ça fonctionnait bien, et je retrouve un peu ça chez Bold aussi, sur certains aspects.
Du coup, t'avais un peu, quelque part, est-ce que t'avais un peu, au moment de te reposer des questions, ce conflit de te dire, finalement, j'ai été plus heureuse en entreprise, mais c'est dans la profession d'avocat qu'il faut que je sois si je veux plaider, donc tu t'étais un peu...
J'étais totalement dans cet état d'esprit-là, ouais, j'étais totalement dans cet état d'esprit de... Moi, ce qui me plaît, c'est l'entreprise, comment ça fonctionne, la culture, ce que j'ai vécu là-bas, c'était vraiment ce qui me correspond et c'est là que je peux m'épanouir. Mais il me manque tout un pan de mon métier que j'aime faire aujourd'hui, que je peux pas avoir en entreprise ou que je pourrais avoir, mais peut-être pas au début, parce que tu peux plaider, mais que certains dossiers, etc. Donc j'avais un peu effectivement ce conflit-là, mais je savais que je voulais quand même continuer dans la profession et tester encore autre chose. Avant de peut-être me dire, je retourne en entreprise, parce qu'en fait, c'était quand même toujours quelque chose que j'avais dans ma tête. Et d'ailleurs, au début, quand j'ai passé mon CRFPA, tout début, quand je me disais que je voulais le passer, j'avais en tête d'être juriste d'entreprise. C'était pas forcément foncièrement d'être avocat. C'est toutes mes expériences dans la simulation que j'ai faite du Parlement européen qui m'ont, surtout que j'ai continué après, je l'ai pas fait qu'une année, j'ai fait 4 fois.
Ah ouais, tu l'as fait 4 fois.
Ouais.
Ah ouais, gros coup de cœur.
Exactement.
Quand est-ce que tu t'es arrêtée? On t'a dit, Margot, c'est fini.
Je travaillais déjà quand je me suis arrêtée. En fait, j'ai commencé à le faire en 2012, quand j'étais en master, entre mon master 1 et mon master 2. Ensuite, en master 2, je l'ai pas fait puisque j'étais en stage. Ensuite, c'était l'année de mon CRFPA, donc j'ai pas fait non plus. Et donc, je suis revenue quand j'étais à l'école des avocats. Donc, 3 ans après, coucou, je suis de retour. Parce que j'avais vraiment envie de revenir. Et en plus, là, j'avais pris un poste de rapporteur où t'as vraiment une vraie prise de parole, où t'as un vrai poids sur le texte. Un rapporteur d'un texte, tu l'écris, tu le défends, tu négocies avec les eurodéputés. Donc j'ai fait ça, ensuite je suis repartie l'année d'après, j'ai été commissaire, donc j'ai écrit moi-même un texte que j'ai porté, sur lequel les gens ont travaillé, et ensuite j'ai présidé le Parlement européen avec un de mes amis, et j'ai
fini là-dessus. Et là tu t'es dit que t'étais en haut de la, t'étais en haut de la pyramide,
voilà. Et que c'était terminé. Et puis je commençais à être plus âgée que la majorité des participants, et c'était le temps que j'arrête, mais la dernière année était vraiment bien, parce que j'ai beaucoup transmis de choses aux gens, de la simulation, de toute mon expérience, et quand on a présidé...
Et que t'as vu aussi, un peu plusieurs parties prenantes.
Exactement. Surtout que mon binôme avec qui je co-présidais, du coup, lui avait fait d'autres rôles. Il avait été chef de groupe politique, il avait été président de commission. Donc on se complétait bien tous les deux. Donc c'était vraiment top de faire finir sur ça avec lui. Il était québécois aussi. Moi, j'étais européenne. Donc c'était tout un symbole. Donc c'était cool.
Donc pour en revenir à Bold... t'y arrives quand même, dans un contexte ce que je comprends, qui est un peu, voyons, est-ce que c'était un peu une dernière chance que tu laissais à la profession ?
Ouais, je pense que dans ma tête, c'était quand même un peu une dernière chance, effectivement, d'arriver chez Bold et de me dire, ok, voyons voir comment ça se passe là, où je savais que j'avais plein de possibilités, parce que moi, la spécificité chez Bold, c'est qu'en fait, je fais du droit du travail. Il n'y a pas d'associé en droit du travail chez Bold, et il n'y avait aucun collaborateur chez Bold en droit du travail.
Mais j'allais te dire quelle est l'activité de Bold en droit du travail, puisque c'est des startups, donc À moins qu'ils aient déjà levé des fonds et embauché, je suppose qu'ils n'ont pas encore de grosse masse salariale. Ouais. Et encore moins, enfin, quid du contentieux sur ce type de structure. Donc, du coup, c'était quoi ton périmètre
Bah, effectivement, en fait, on intervient donc sur les. Alors, on a des boîtes chez Bolt qui sont très early stage où effectivement, tu vas avoir peut-être un salarié. Donc, on va faire leur contrat de travail, leur avenant, des ruptures conventionnelles, des ruptures de période d'essai. On fait vraiment toute la vie quotidienne. Donc, on est un peu RH externalisé, si tu veux, ou ce genre de choses-là. Et ensuite, bah, on a comme on a tout type de structure, on suit vraiment l'évolution de nos clients. Donc, comme tu dis, quand ils lèvent des fonds, bah, généralement, ils embauchent beaucoup. Donc, on fait tous les recrutements, tous les contrats et toute la formalisation de la relation de travail. Et en plus, après, tu vas avoir la mise en place du CSE, la gestion des départs un peu compliqués, les problématiques de durée du travail, on négocie des accords d'entreprise. On a en fait tout plein de problématiques qui arrivent, les avantages en nature, comment fidéliser ses salariés. On a vraiment... On gère toute la vie, en fait. C'est, on est un peu RH externalisé, si tu veux, vraiment, pour nos clients.
C'est parfait pour toi?
Pour moi, c'est parfait. Genre, vraiment, j'adore ce que je fais aujourd'hui et je vois tout type de société. Donc, on a de la early stage qui a sa première embauche, ce qui est aussi hyper cool pour nous parce qu'on, c'est une épreuve pour eux. Donc, on les accompagne dans leur première embauche, parfois dans leur première rupture aussi. On leur explique tout et on a parfois des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas du tout familiarisés avec tout ça, donc ça c'est vraiment intéressant, jusqu'à des sociétés comme Hitch qui a plus de 200 ou 300 salariés aujourd'hui, qu'on accompagne aussi, qui a d'autres problématiques. On a aussi Shine, un de nos clients avec lequel j'ai pas mal travaillé, qui a voulu refondre en fait leur contrat de travail pour accorder un jour de congé supplémentaire à ses salariés pour leur permettre d'aller travailler ailleurs, en freelance notamment. Donc c'est des gens qui essaient un peu d'innover en droit du travail. Donc il y a un vrai aspect de aussi repenser un peu le droit du travail par rapport aux startups, plus de flexibilité. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a des problématiques qui sont vraiment intéressantes. On a aussi des problématiques de quelle convention collective j'applique en fonction de l'activité de nos clients. Donc on a vraiment tout un panel qui est quand même très très large en termes d'activité. Sur le contentieux, j'ai envie de te dire, quand je suis arrivée chez Bolt en mai 2018, il y en avait très peu. C'est souvent du départ négocié. Enfin, quand il y a du contentieux, souvent on le transige parce que c'est quand même des structures où tout le monde s'entend assez bien. Donc, on arrive quand même à trouver des accords. Et il y avait très très peu de contentieux. Aujourd'hui, on en a un peu plus parce que nos sociétés grossissent, donc forcément il y a un peu plus de contentieux. On a un peu de prud'homme, donc on en a. J'en plaide un peu, pas tous les quatre matins, mais j'en plaide quand même un petit peu pour Bolt. On a du contentieux. J'en ai eu un gros cet été. Avec des demandes très très élevées à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on en a quand même un peu. Donc,
et c'était ça. Comment du coup d'arriver dans ce cabinet, jeune collab, parce que tu avais quoi, un an d'expérience?
J'avais un an et demi de barre, c'est ça, un an et demi de barre.
Et donc en fait. Et puis pas d'associé, donc.
Personne en fait.
Ouais.
Moi j'arrive et je suis la seule collaboratrice en droit du travail de tout Bolt. Donc il y avait des gens qui avait un peu géré en mon attente. Il y avait certains collaborateurs qui avaient fait un peu de social, donc ils pouvaient gérer un peu les contrats de travail, on va dire les actes simples de la vie courante. Pour ceux des trucs un peu plus techniques, ils étaient plus limités parce que c'était pas leur matière. Donc j'arrive dans ce contexte-là où je suis un peu seule à prendre tous les aspects droit du travail chez Bolt. Plus, il y a aussi tous les aspects levée de fonds sur lesquels on doit auditer toutes les parties de la partie sociale dans le cadre de ces opérations-là. J'arrive aussi au moment où il y a un exit qui se passe au cabinet, où il y a des salariés, qu'on a une de nos startups qui est en train de se revendre. Donc j'arrive dans ce contexte-là aussi, c'est une opération de M&A en anglais, etc., avec en plus des problématiques en social, donc c'est très challengeant pour moi. Donc je me dis, ok, c'est cool, je vois vraiment plein de choses différentes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de charges, parce que je suis toute seule pour absorber tout ça. Il y a de plus en plus de besoins aussi. Et avant, ils communiquaient pas énormément sur le fait qu'il y avait du social au sein de Bolt, parce que tant que j'étais pas là, ils faisaient un peu comme ils pouvaient avec les gens qui avaient en interne. Mais quand j'arrive,
Ils le disent, et là, toutes les startups se disent « Yalla, on a plein de besoins !»
Exactement. Alors, ça se fait progressivement, mais il y a quand même de plus en plus de besoins en social. Donc, rapidement, je me retrouve quand même un peu avec beaucoup, beaucoup de charges de travail. Donc c'est un peu compliqué à gérer pour moi. Donc je suis passée d'un environnement où en plus à la fin j'avais un peu moins de boulot dans mon ancienne collab, c'était un peu tranquille, à je croule sous le boulot. Et c'est cool, après j'adore parce que c'est hyper challengeant. Je peux traiter peut-être 10 ou 15 dossiers dans la journée, tu vois. Donc, je vois vraiment plein de choses différentes. Je suis en direct avec les clients puisque c'est moi qui gère tout. Donc, j'ai la relation client, j'ai tout. Mais en même temps, c'est aussi difficile pour moi sur certains aspects parce que, il n'y a personne pour me backer. Et finalement, je prends mes décisions seule. Je prends mes décisions juridiques d'un point de vue technique aussi seul. Alors, bien sûr, il y a des gens avec qui je peux échanger, qui ont fait un peu de social, etc., qui peuvent me challenger, mais bon, je suis quand même un peu seule.
T'es quand même celle qui a le plus d'expérience et de... Voilà.
Ouais, c'est ça. En social, je suis la référente, on va dire. Puis dès que quelqu'un a une question sociale au cabinet, c'est vers moi qu'on se tourne. Donc, en fait, en externe et en interne, c'est vraiment moi qui fais tout. Donc, rapidement, en fait, je fais part du besoin de recruter quelqu'un, parce que clairement, vu la fréquence... à laquelle ça se développe, je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Donc il y a quelqu'un qui me rejoint. Donc moi je suis arrivée en mai, on recrute quelqu'un qui arrive en octobre. Et donc là, bouffée d'air frais, il y a quelqu'un qui arrive.
Mais que du coup tu dois manager.
Ouais, alors c'est quelqu'un qui a 2 ans d'expérience comme moi. Okay. Donc
donc il y a pas d'histoire de.
Non, il y a pas vraiment d'histoire.
On est
alors bien sûr moi en fait, j'ai l'ancienneté, on va dire, et l'historique et la connaissance des clients, donc c'est plus que je suis arrivée la première, donc je sais plus comment faire,
l'idée c'est que vous répartissiez les trucs,
ouais,
quoi.
C'est ça. Et moi je la vois vraiment comme un véritable binôme pour moi, et c'est quelqu'un qui peut me challenger intellectuellement, tactiquement, donc ça m'apporte beaucoup. Dès qu'elle arrive, pour moi, c'est genre vraiment ok, j'ai enfin un copain, une copine avec qui échanger sur mes dossiers, et je peux parler technique et je peux me prendre la tête sur les dossiers et réfléchir sur mon positionnement juridique, comment je conseille le client avec quelqu'un. Donc c'est génial, moi je suis hyper contente quand Alice arrive, c'est vraiment genre, pour moi c'est génial. Donc non, il n'y a pas de relation d'hiérarchie entre nous, pas forcément hyper évident d'ailleurs entre nous au début sur cet aspect-là.
De trouver ses marques sur les dossiers. Ouais, comment vous avez géré? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fluidifié du coup?
Ça s'est fluidifié assez naturellement parce que je pense que moi je l'ai fait rentrer progressivement sur les clients que je commençais à traiter. On s'est réparti la charge. Il y a certains clients qu'elle a récupérés. On a toujours des nouveaux clients qui arrivent chez Bold aussi. Donc il y en a qu'elle a pris elle directement. Donc à ce moment-là, elle avait un peu son portefeuille de clients et moi j'avais les miens. Sur les gros clients, on les gérait en binôme parce que je pouvais juste pas les gérer toute seule. Donc ça s'est fait assez naturellement et petit à petit on a réussi à trouver notre équilibre toutes les deux, mais toutes les deux on a aussi rapidement été débordées parce que juste ça grossit beaucoup plus vite.
Que le cabinet a eu une croissance assez dingue en un an. Ça fait deux
ça
ans
fait
maintenant
deux ans ouais. maintenant ouais
c'est ça toi fait t'es arrivé ans. Le cabinet avait 6 mois, c'est ça?
Ouais. C'est ça. Ouais. Le cabinet avait... Moi, je suis arrivée le 2 mai, donc le cabinet avait 4 mois. Et moi, j'étais au début de Bold, on va dire. Maintenant, on est plus de 40, je crois, donc ça n'a plus rien à
mais
voir.
Mais c'est intéressant aussi, ça. Du coup, t'as dû voir comme dans une boîte qui grossit vite.
Exactement.
Le Bold des débuts et le Bold de maintenant, enfin, est-ce que son évolution te... t'y es toujours épanouie, parce que c'est ce qui fait que t'es sur ce canapé, mais... comment tu l'as vécu justement cette transition
Ouais. Moi je l'ai hyper bien vécu parce que déjà moi j'ai eu la possibilité de créer, on va dire, un département qui n'existait pas avant. Donc j'ai eu cette possibilité là. Donc moi j'ai mis en place en interne sur notre partie beaucoup d'outils, de process. Le cabinet est aussi dans cette logique là d'essayer de se processer le plus possible, de réfléchir un peu à la manière dont on fait du droit et dont on délivre du conseil à nos clients. Donc par exemple, on a un wiki interne où on répertorie un peu, on a des fiches sur des thématiques qu'on a régulièrement qui reviennent, où on peut directement aller chercher notre réponse pour le client là-dedans. Ça permet aussi de former les nouveaux, leur dire attends, il y a une fiche sur Slide, tu peux aller voir là-dedans. Il y a certains de nos process qui sont déterminés là-dedans. Donc en fait, moi je me suis vraiment emparée de tous les outils, toute la volonté du cabinet de se processer, de se structuré. Moi, c'était quelque chose que j'avais en tête de faire, aussi de mon expérience, je pense, de l'entreprise, et que je voyais qui pouvait être fait. Donc ça, je l'ai vu au fur et à mesure de ma collaboration chez Bold se mettre en place. Donc, on a mis en place le wiki. Moi, j'ai été vraiment moteur là-dessus. J'ai vraiment pris le truc à bras-le-corps. J'ai fait plein de fiches wiki. Surtout qu'après, nous, aujourd'hui, on est 4 dans le département social. On sera 5 bientôt. Donc, c'était aussi pour moi une manière de... OK, pour les nouveaux qui arrivent, surtout qu'on a intégré beaucoup de Après, on a intégré quasiment que des juniors, des gens qui rentraient dans la profession, donc c'était la première collaboration. Donc ça leur permettait d'avoir une base et de s'auto-former, on va dire, un petit peu. Donc il y a eu ça, on a maintenant un système en interne aussi de tickets, donc quelque chose que je connaissais en entreprise. Quand on a des dossiers, donc quand on a des demandes de nos clients, en fait, on ouvre des tickets. Et ça nous permet d'avoir un vrai suivi de notre to-do list, en fait, si tu veux. Et c'est un outil, c'est un process qu'on a en interne, et on peut aussi, comme ça, se transmettre les demandes entre équipes. Donc, on a des hashtags, donc quand t'as une demande qui est, je sais pas, pour l'équipe IT...
Vous êtes sur Slack?
Alors, on est sur Slack aussi, donc on est passé sur Slack. Moi, j'ai vu le passage sur Slack, on était sur Link avant, maintenant on est passé sur Slack. Donc j'ai vu en fait tous les process et moi je m'en suis vraiment emparée parce que c'est quelque chose auquel je suis assez sensibilisée et je vois aujourd'hui le bol de maintenant, donc moi un peu plus d'un an et demi après versus celui qu'il y avait au début, ça n'a rien à voir en fait, on est vraiment beaucoup plus structuré, on a des process, donc on a Slack, on a le Slide qui est notre wiki, on a Freshdesk avec nos tickets, on a tous des process en interne aussi, on a donc là...
Donc ça veut dire quoi les process en interne?
Ben, c'est-à-dire que tu vas avoir effectivement donc tous ces donc c'est ce que je te disais sur les tickets là la tenue du Freshdesk. On va avoir donc des revues de pipe en fait où tes managers ou les gens on a une réorganisation interne qui a été faite aussi vont voir un petit peu ta charge de travail et ça permet aussi d'avoir une visibilité pour les gens qui managent les équipes
donc, en fait,
sur la charge de travail.
Parce que t'as dit le nom du logiciel, mais je pense que pour des personnes qui sont pas familiarisées à ce monde-là, comme 98% des avocats, peut-être que j'exagère, mais bon, comme beaucoup, vous avez un logiciel de gestion de projet. Et c'est une sorte qui doit fonctionner peut-être un peu comme un truc de gestion de projet.
Alors, c'est pas tout à fait un gestion de projet, si tu veux, c'est vraiment des tickets. Donc, c'est-à-dire que ton ticket, j'ai un client qui m'envoie une demande aujourd'hui par mail, qui me dit, OK, j'ai besoin d'un contrat de travail. Donc moi, je vais envoyer cette demande-là sur l'interface, sur le logiciel, c'est sur Internet. Ça va créer un ticket, en fait. Le ticket va s'ouvrir. Sur ce ticket-là, moi, je vais pouvoir choisir, moi, une date de résolution. Donc ça va être, en fait, mon échéance que je mets. Et en fait, je relis ce ticket-là à la personne qui m'a créé.
Ça me fait penser à Trello, par exemple.
Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose. On a aussi Trello, on s'est servi de Trello, on s'en sert aussi. Mais en fait, c'est mieux dans le sens où après, tu peux avoir un statut aussi de ton ticket. Donc, ton ticket, il est soit ouvert, il est soit en attente, parce qu'on est en attente de retour du client, soit il est fermé. Et t'as une vraie, t'as beaucoup plus, c'est beaucoup plus lisible que Trello, en vrai.
C'est vrai que Trello est pas du tout,
C'est ça.
Moi, je déteste l'interface de Trello.
Ouais.
Mais sur le concept.
Mais sur le concept, c'est la même chose.
C'est de la gestion de projet,
exactement,
quoi.
Exactement.
Et du coup, tu peux mettre les parties prenantes,
ouais.
Et puis chacun valide,
Normalement, ouais, c'est ça. Chaque ticket est attribué à un agent, en
fait.
C'est un peu, généralement, t'as ça pour les sociétés informatiques. Quand t'as des demandes informatiques, tu crées des tickets. Donc, t'as un ticket qui est attribué à un agent qui ensuite doit fermer la demande. Et ce qui te permet de savoir, combien t'as de tickets à peu près. Donc...
Et du coup, ce qui permet de voir qui a quoi sur son dashboard, quoi.
Ouais, exactement. Et ça,
sur son tableau de bord, pardon.
Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant en termes de suivi de projet pour les associés ou les managers, parce qu'on a aussi toute une organisation interne.
C'est vrai que, tu vois, par exemple, Lucie Zels, qui était collaboratrice chez La Tournerie, qui est passée sur le podcast, elle disait que par rapport à cette charge de travail, elle avait fini par se faire un tableau Excel où elle listait tout, et elle s'appuie dessus, enfin c'est son plan de charge, et elle s'appuie dessus pour dire à son boss, en fait, là, matériellement, ce que vous me demandez, ça rentre pas dans mon tableau Excel, c'est pas possible, enfin en tout cas pas avec des journées possibles, quoi. Donc, on revoit les priorités, il se passe un truc, mais en tout cas, faut que vous décidiez, quoi, faut que vous managiez cette charge de charge de travail.
J'avais un tableau Excel, moi-même, avant.
Exactement,
ça se rapproche exactement de ça.
Ça, c'est l'équivalent version sympa et logiciel spécialement pensé pour. Et donc, du coup, vous pouvez l'utiliser pour ça. C'est vrai que c'est... moi, le nombre de personnes, quand je les vois dire non, je suis débordée, j'ose pas dire non, je leur dis, fais comme Lucie, fais-toi un tableau de plan de charge. Et ça peut aussi être fait comme... fait comme Margot, fait comme Bold.
C'est ça. Et c'est moi je trouve ça vraiment top comme outil parce que ça te permet de suivre et ce qui nous permet aussi de suivre les demandes des clients puisque comme tu disais on a un forfait illimité aujourd'hui Et c'est aussi important qu'on sache, ben, déjà, si c'est rentable ou pas, et quel type de demande il y a, et quel volume de demande il y a. Donc, au moins, là, ça nous permet d'avoir des statistiques sur, OK, ben, le client, il a eu tant de demandes dans l'année, il y a eu tant de tickets. Donc après, bien sûr, on n'arrive pas à les pondérer encore aujourd'hui, mais on sait à peu près le type de demande, etc.
Non, mais c'est
ça,
ça permet d'avoir une visibilité, en fait. Ouais.
Ça nous permet vraiment d'avoir de la donnée, surtout, à la fois sur la charge de travail des collaborateurs et sur ce que consomme le client. Donc, je trouve que c'est vraiment des outils qui sont intéressants et très novateurs.
Et de pouvoir avoir des données aussi sur, du coup, en moyenne, on met combien à demander, à faire, combien de temps à traiter tel genre de demande.
Ouais.
Ouais.
Exactement.
Ce qui est, enfin, je pense que ce que permettent de faire un certain nombre de logiciels de compta, d'avocat ou de rentrée de temps et tout, mais là c'est matérialisé sous forme de.
Ouais.
Donc du coup, toi, ça te plaît cet aspect process, on réfléchit à comment est-ce qu'on est plus efficace, plus productif, plus performant.
Ouais, moi c'est vraiment des aspects qui me plaisent beaucoup, genre sur comment s'améliorer, comment optimiser. Je le vois, ces outils-là, c'est des outils qui sont utilisés par nos clients start-upers qui, pour beaucoup, essaient un peu de disrupter certains milieux, etc. Donc, on s'inspire un peu des pratiques de nos clients. D'ailleurs, le wiki qu'on a en interne, ça vient de moi. Enfin, déjà, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en place au sein du cabinet. J'étais chez un client qui en avait un. Je lui ai demandé l'interface qu'il avait. Après, on l'a cherché en interne à avoir quelque chose, etc. Donc, ça part vraiment de discussions avec nos clients et ils nous enrichissent aussi là-dessus. Donc, et le wiki, c'est vraiment un outil que moi je trouve génial parce que c'est classé par thème, par matière, par et puis voilà, nous on a un social, tu vas voir les licenciements, les ruptures conventionnelles, OK, comment on fait les docs, tu peux insérer les docs à l'intérieur, ouais, tu peux avoir des mails
gros type travail
aussi.
De knowledge management quoi.
Ouais, en fait l'idée nous c'est dès qu'on a beaucoup de petites questions qui reviennent tout le temps, genre je sais pas comment une question qu'on a, je sais que parfois les gens se moquent là-dessus, mais est-ce qu'un stagiaire peut avoir des tickets restaurant, tu vois, genre ça on a une fiche slide là-dessus et quand on a une question, on fait un copie-colle et on la met parce que c'est une réponse qui change pas. Bien sûr, l'idée c'est aussi qu'on se challenge tous et quand tu vas voir une fiche slide, tu te demandes si elle est à jour ou pas, mais vraiment le wiki c'est un outil qui est génial quoi. Moi je trouve ça top d'avoir toute une base de données. Je sais que t'as des cabinets d'avocats où t'as tous les modèles d'actes, etc., mais des réponses types qui y sont, mais comme nous aussi, on est plus sur le temps passé, il y a plus cette logique-là de, OK, il faut vraiment que je fasse chaque réponse, chaque demande du client, il faut que je fasse une consulte, tu vois, qui fait trois pages avec plein de notes de jurisprudence et de références. Nous, c'est des bullet points et c'est le plus pratico-pratique, parce que ce qu'il veut le client, c'est juste oui, non, et sinon, c'est quoi mon risque? Donc, on se sert de tout ça, on capitalise.
Oui, c'est pas juste une histoire d'abonnement illimité, ça va au-delà. C'est aussi parce que en fait vos clients ils veulent pas des consultes de 3 pages, ça les intéresse pas quoi. Ils veulent juste savoir pragmatiquement.
C'est ça.
Enfin.
Ils veulent être guidés dans leurs réflexions, ils veulent du conseil et que tu leur expliques en fait. C'est vraiment la plus-value d'avocat et c'est tout le projet de Bold et celui-là et c'est vraiment ce qui est permis de faire en tant que collaborateur aussi, c'est de conseiller ton client et de l'aiguiller, lui apporter de la plus-value et de pourquoi c'est ça. En fait, l'acte en tant que tel, peu importe. Et d'ailleurs, en 134, de quelle issue, enfin, scission de Bold avait mis en libre service des modèles d'actes parce qu'en fait, c'est pas sur l'acte en tant que tel qu'on a de la plus-value, c'est sur le conseil et c'est ce que tu apportes et c'est ce que tu expliques à ton client. Et on est sur cette logique-là totalement. C'est pour ça que le temps passé est totalement. Pour nous, ça n'a plus de sens en fait, parce que peu importe le temps que tu passes, la plus-value, elle est sur le conseil qu'on donne. Donc, si on arrive à capitaliser, à justement avoir des modèles d'actes, des modèles de consultes, des modèles de réponses, des modèles de tout ça, ça nous fait gagner du temps et derrière, on est juste là vraiment en conseil, en stratégie, on va dire.
Et tu développes ta clientèle personnelle ?
J'ai pas trop le temps, je dois t'avouer, parce que Bold me prend beaucoup de temps, mais j'en ai un peu, j'en ai tout le temps, j'ai tout le temps un peu de clientèle perso, et Bold te permet de...
Social,
ouais, c'est ça.
Ce genre de matière, il y a toujours un pote ou un pote de pote.
C'est ça. Donc ça m'arrive souvent. Et Bold nous laisse totalement la possibilité de développer notre clientèle perso, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un point fort aussi qui a chez Bold. Donc j'en ai, je le développe pas particulièrement, mais il m'arrive et j'en ai toujours un petit peu. Donc,
en tout cas, c'est pas une démarche que t'as, quoi. Tu préfères te donner pour Bold.
Aujourd'hui, je suis à fond impliquée dans ce projet-là et on a intégré des nouveaux collaborateurs, notamment des plus jeunes que j'ai formés. J'ai un peu créé cette team-là que j'ai vu grossir. Et
d'ailleurs, je pense que c'est une de tes jeunes collaboratrices. C'est parce que c'est Élise qui t'a recommandé, donc tu dois travailler avec elle.
C'est ça, exactement. Ça, c'est des aspects qui me plaisent beaucoup aujourd'hui. Et je suis bien épanouie chez Bol dans ce que je fais au quotidien. J'aime bien avoir ma clientèle perso aussi. Mais j'ai pas un besoin absolu de développer une clientèle perso parce que j'aime ce que je fais au quotidien. Et finalement, je suis très très libre dans ma pratique chez Bol. Je veux dire, j'ai pas d'associé. Donc il y a personne qui nous dit non, fais plutôt ci comme ça, fais plutôt ça comme ça. Et on se challenge entre nous. Et notamment avec Alice qui a la même expérience que moi. On s'apporte. Tous, on n'est que des filles en droit social, c'est souvent le cas, mais dans notre équipe, on s'apporte toutes mutuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de solidarité. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très présent chez Bol aussi au niveau des collaborateurs. Et c'est un peu la force de ce cabinet-là, c'est que on grandit tous ensemble et on échange nos meilleures pratiques. Et il n'y a pas du tout d'esprit de compétition comme tu peux avoir dans les autres cabinets. Et ce qu'on a pu m'expliquer par le passé, où c'était très hiérarchisé, c'est pas du tout l'état d'esprit chez nous. Et ça, c'est... Je retrouve un peu ce que j'avais vécu en entreprise, donc c'est aussi pour ça que j'y suis bien, que j'y suis très épanouie.
Parce que du coup, c'est un cabinet dont la croissance s'explique parce que c'est vrai que c'est un peu une référence dans le secteur start-up et ils ont une croissance qui est organique. Ils font beaucoup de travail de communication et de marketing, mais est-ce que toi, tu te sens associée ? Est-ce qu'il y a un besoin que les collaborateurs fassent du développement pour le cabinet ou...
Alors, on est assez impliqués là-dedans de plusieurs manières. Déjà, Bolt fait beaucoup de sessions de mentoring auprès des incubateurs. On est notamment à Station F deux fois par semaine, si je ne m'abuse. Moi, j'y vais pas trop, parce qu'il n'y a pas trop de besoins sociaux. Et donc, effectivement, tous les collaborateurs vont faire des sessions de mentoring. On est aussi à Ouila. On a plein d'incubateurs auprès desquels on intervient. Et tous les collaborateurs sont invités à le faire. Et c'est aussi très enrichissant pour toi de faire c'est un peu comme des consultations juridiques gratuites finalement. Et je sais que ça apporte beaucoup, même en termes de confiance en toi et de en plus t'es confronté vraiment à l'entrepreneur que tu vois comment il réfléchit, c'est notre clientèle au quotidien. Et du coup ça participe aussi du développement commercial de Bol puisque tout ça c'est gratuit, donc c'est des sessions gratuites. On a aussi on participe au call avec les prospects, donc dès que t'as des prospects qui peuvent appeler au cabinet, nous on est conviés. Si c'est sur ta matière, on te demande si tu peux prendre le call juste pour pour expliquer dans ta matière, mais on fait aussi du commercial, donc t'expliques les offres de Bold, ok, on a un forfait illimité, tu vas t'abonner chez nous, c'est 360, t'as accès à toute l'ingénierie du cabinet, tout ça, c'est un discours commercial qu'on a, ouais. Que les plus anciens ont plus, parce que on est plus rodés à ça que les plus nouveaux, mais on fait aussi un peu de commercial.
Et toi, ça, c'est quelque chose qui te plaît ?
Ouais, ça me plaît bien. Puis c'est cool de l'apprendre dans ce contexte-là aussi, ça t'aide aussi, justement, pour ta clientèle perso, ce genre de choses-là, ça te... C'est vrai que c'est toujours un truc, les honoraires, quand t'as une clientèle perso, t'es toujours là, il faut que j'aborde la question, mais comment je vais faire? Du coup, de le faire dans le cadre de Bold et d'être obligé de le faire et de te sentir assez libre de le faire parce que finalement, c'est pas ton cabinet et t'es plus à l'aise pour le faire, ça te force aussi à du coup le faire dans ta vie perso et pour tes dossiers perso.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, dans tes dossiers perso, tu fonctionnes sur un schéma comme ça, forfaitisé
Ça peut m'arriver. Après, pour l'instant, j'ai beaucoup plus de dossiers salariés. Donc, c'est un autre type d'accompagnement, un autre type de... Généralement, quand t'es côté salarié, tu prends un fixe et tu prends un pourcentage de ce que tu vas négocier. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est aussi forfaitaire, mais c'est déjà comme ça que ça se pratique dans l'usage, dans les cabinets d'avocats. Mais après, si je fais un peu de conseils, généralement, je fais des forfaits, effectivement.
Donc t'as cette culture-là, quoi.
Ouais, totalement.
Mais, par exemple, contrairement à des cabinets... En fait, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu dois voir, justement, grâce à cet outil de gestion que vous avez, ça doit te permettre de... Parce que souvent, un des soucis des avocats par rapport à cette notion de forfait... Et des collaborateurs qui n'ont pas trop d'expérience et qui disent, mais en fait, je ne sais pas encore combien ça va me prendre de temps de faire ça. On me le demande, j'ai envie de le faire parce que je développe ma clientèle personnelle, je suis jeune avocat et puis je pense que c'est à ma portée, mais c'est juste que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre et il ne faut pas que je fasse payer au client mon mon prix de formation, de ma formation. Et d'un autre côté, il faut quand même que je me fasse justement rémunérer pour ma prestation. Et en fait, toi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, grâce à cet outil, à défaut d'avoir un cabinet qui a fait des forfaits pour chaque type d'acte, ou de prestation ou de consultation, tu peux voir un peu, enfin, ça se trouve, c'est pas quelque chose que tu fais, mais en tout cas, tu peux aller voir sur cet outil et dire, ah oui, ben ça, en général, quand on le fait, ça nous prend X temps, ou,
Ouais, alors, on a pas, nous, collaborateurs, on n'a pas forcément accès à ces stats-là, mais oui, dans l'idée, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, et après, bah, du coup, je le sais de par ma pratique, en fait, de chez Bolt, je sais à peu près combien de temps ça me prend. Un contrat de travail, ça me prend pas beaucoup de temps, mais bon, ça aussi c'est parce que moi j'ai, en plus moi à titre perso, enfin mais du coup pour Bold initialement, j'ai beaucoup automatisé d'actes qu'on a, donc j'ai fait du publi-postage, qui est une fonction qui existe via Excel et Word, donc c'est pas très très compliqué non plus, et c'est quelque chose que je voyais en entreprise, quand t'as X courriers d'augmentation à faire pour des salariés, ben plutôt que de te taper à chaque fois à la main, madame, truc mûche, augmentation de temps à partir du temps, parce que ben nous on fait ça, hein, je te dis, on fait toute la relation travail, donc y compris les petits actes sur lesquels sur ça on n'a pas forcément beaucoup de plus-value, ben ça, on va prendre beaucoup de temps pour le faire alors qu'on n'a pas beaucoup de plus-value, et tout ça tu peux l'automatiser en fait, où tu rentres juste tes données dans un tableau Excel et ensuite tu le relis à ton Word et ça se met à jour automatiquement. Donc moi j'ai fait ça sur les contrats de travail, on a fait ça sur les ruptures de période d'essai, on a fait ça sur les ruptures conventionnelles, sur les actes qu'on a beaucoup en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui ben effectivement, j'ai investi beaucoup de temps là-dessus, parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps de créer toutes ces automatisations, mais maintenant, je sais combien de temps ça me prend pour faire un contrat de travail ou pour prendre une rupture conventionnelle. Mmh. Je sais combien de temps ça me prend. Après, la problématique, elle est plus que... En fait, on a tellement de flux de demandes que c'est un peu... quand est-ce que je peux le caler dans déjà tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est j'ai déjà mon planning, entre guillemets, de « Ok, je sais qu'il y a telle embauche à sortir pour le 13 janvier, j'ai ça, ça, ça comme contrat de travail à faire. Bah, là, j'en ai une nouvelle qui arrive. Est-ce que je peux l'intercaler entre ou pas ?» Ou en fait, tout est un peu déterminé comme ça chez nous. Donc, le fait de savoir combien de temps ça te prend de faire un contrat, parfois, il y a des contrats qu'on va pas faire tout de suite parce qu'on sait qu'on a le temps. On sait que la date d'embauche, elle est un peu plus lointaine et que la deadline est un peu plus longue. Mais donc, c'est pour ça que ça peut être un peu faussé, si tu veux, sur cette notion de combien de temps tel acte nous prend.
En tout cas, j'ai l'impression que c'est un cabinet où la notion de gestion du temps est intégrée, quoi.
Ouais, après, moi, je pense qu'à titre perso, j'y suis très, très sensibilisée aussi.
D'accord, c'est plus une sensibilisation personnelle.
Ouais, ben, je pense que j'essaye au maximum d'optimiser mon temps. Mais je pense que le cabinet, effectivement, est aussi sensible à tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a tous ces outils-là. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on a une croissance qui est quand même assez exponentielle et qui... Enfin, on a beaucoup de charges de travail et on a des clients qui grossissent vite. Parce que même si on n'a peut-être pas un portefeuille de clients qui a... explosé en un an, j'en avais quand même une forte augmentation, mais je veux dire qu'on n'a pas fait un x5, tu vois, en termes de clientèle. Mais par contre, les besoins de nos clients ont augmenté parce qu'ils ont levé beaucoup plus de fonds, donc les problématiques sont beaucoup plus, nous demandent beaucoup plus de temps et sont beaucoup plus techniques. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça passe par nous, il faut qu'on gagne du temps, c'est clair, parce que sinon, le modèle économique de Bolt peut pas non plus fonctionner parce que, si t'as plus de charges de travail, mais que t'arrives pas à automatiser tes process, à gagner du temps sur ta production, comment tu vas y arriver? C'est en recrutant plus de collaborateurs. Sauf qu'en fait, la masse salariale, entre guillemets, va exploser et le modèle économique sera pas viable. Donc c'est vrai qu'il y a quand même aussi toute cette sensibilisation.
Mais c'est intéressant que tu dises que ça part de quelque chose auquel de toute façon tu as une appétence, quoi.
Exactement.
T'es du genre à avoir lu la 25e heure.
Exactement. C'est ça. Et ouais. C'est ça. Moi, et je pense que c'est en venant chez Bold aussi. J'étais déjà un peu sensibilisée, je pense. Et en venant chez Bold, je me suis encore beaucoup plus imprégnée de tout ça. Donc, j'ai lu la 25e heure, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres sur l'organisation, la productivité. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Et en fait, j'essaie de gagner du temps et d'être le plus productif possible et le plus efficace possible et d'apporter un conseil le plus proche de ce qu'ils veulent en moins de temps possible sans perdre en qualité.
C'est quoi ton tips préféré en termes de... ou tes trois tips préférés en termes de gestion du temps? Les trois trucs que tu fais le plus.
Les trois trucs que je fais le plus, l'inbox zéro. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je le fais beaucoup. Donc j'ai une méthode de classement de dossiers qui me permet de visuellement juste pas avoir ma boîte mail qui est surchargée, parce que quand t'arrives le matin et que ta boîte mail et qu'il y a déjà genre 65 mails en attente, comme ça pouvait être le cas à l'époque où j'étais toute seule, c'est juste une espèce d'angoisse absolue. Donc avoir un inbox zéro où moi je classe, ben voilà, j'ai un dossier qui est à traiter, où je sais que tout ça c'est à traiter, mais au moins c'est des dossiers auxquels j'ai accusé réception au client, et ça me libère un petit peu l'esprit de savoir que c'est pas là, et quand je vois mon inbox zéro en fin de journée, c'est juste trop cool, je peux rentrer chez moi, je suis super contente. Ça veut pas dire que j'ai tout traité, mais juste, je suis libérée en fait. Ça c'est vraiment un truc que je trouve cool. J'ai beaucoup repensé aussi mon organisation. Moi par exemple, je sais que je suis plus productive le matin, donc je travaille sur mes dossiers le matin et mes rendez-vous clients, tous mes calls, etc., je les passe l'après-midi. Donc je me suis organisée comme ça. C'est mon organisation à moi qui me convient. Mais j'avoue que ça me simplifie beaucoup, et je sais au moins que le matin, bah, je suis focus et je produis. Et après, bah, j'ai mes rendez-vous clients et tous mes calls, et après je me remets à reproduire le soir. Donc ça, c'est moi ce qui me convient. Et mon troisième tip, ben, c'est un peu, c'est ça, l'automatisation et la templétisation, on va dire, de garder des modèles de choses que tu sais qui reviennent beaucoup, en fait, parce que tu perds beaucoup de temps, en fait. Moi, je me suis rendu compte que quand j'étais dans mes précédents cabinets ou dans précédentes expériences, t'es toujours en train de te dire, mais attends, j'ai fait ça dans tel dossier pour monsieur un tel ou pour telle société, tu te rappelles, on a bossé sur telle problématique, et là, tu vas chercher dans tes dossiers, dans tes mails. En fait, tu perds un temps fou à faire ça. Genre, je me suis dit, mais... Et tout le monde fait ça. Genre, quand j'étais en stage chez Fidal en L3, je me rappelle que... Ok, il y avait des outils de recherche, mais clairement, c'était... Ah oui, je me rappelle que j'ai fait ça dans tel dossier. Et du coup, on te ressortait le truc. Et je me dis, en fait, si t'arrives à bien avoir une méthode de classement où tu sais que t'as tous tes actes et tous tes modèles, mais tu gagnes tellement de temps, en fait. Genre, là, genre, hier, j'ai dû chercher un truc que j'avais pas rangé et... Ça m'a rendu genre, j'ai dû perdre une heure et demie à retrouver le mail que je voulais. Et je me suis dit, et dès que j'ai trouvé, je l'ai enregistré, je l'ai classé, je l'ai mis dans le dossier. Donc, ouais, le classement, pour moi, c'est un truc hyper important. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent avec moi sont un peu genre... Je suis hyper psychorigide là-dessus, c'est ça. Mais je trouve que ça gagne tellement de temps. Là, on vient de bosser au cabinet entre collab. On a mis en place un truc qu'on a appelé le boldstorming. Et on réfléchit entre nous à justement améliorer un peu les process. Et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on renomme tous les dossiers, le classement du réseau interne. Et donc, on a fait penser toute une méthode qui nous permet d'être vraiment beaucoup plus efficace.
Tu sais, tu t'entendrais bien avec Guillaume Arrigui. C'est aussi un de mes invités du podcast. C'est l'épisode 8 ou 9. Et il est fiscaliste. Lui, il est chez EY. Et c'est pareil. Il adore les histoires de productivité. Ouais. Donc, ça me fait tout à fait penser à ça.
C'est ça. Moi, je suis hyper sensible.
Moi, j'essaye. J'ai plutôt une base bordélique, mais j'essaye de me discipliner. Et de faire des... Tu vois, par exemple, maintenant, quand on me recommande quelqu'un, je le mets tout de suite dans le fichier Excel et je mets tout de suite la personne, les coordonnées, ce qu'elle fait, le type de cabinet et tout, parce que sinon, après, j'oublie et je dois aller rechercher. Ah, mais oui, mais on m'avait conseillé quelqu'un. Ouais. Non, non, non. Donc ça, c'est bon, j'ai pris le pli. Pareil, quand on me donne les coordonnées, je les mets tout de suite dans mon téléphone, parce que le nombre de fois où je me suis retrouvée à devoir... bref. Et donc, mais c'est une... C'est dur hein, de se discipliner sur ce genre de choses. Faut vraiment y aller petite chose par petite chose.
Exactement.
Quoi. Truc d'amélioration en truc d'amélioration. Ouais.
Mais je t'assure que ça te libère tellement l'esprit.
Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, avec toi.
Sinon, t'as ce qu'on appelle, je sais pas dans quel bouquin j'ai lu ça, mais t'as le nuage gris là,
dans
un coin de ta tête où tu te dis tout le temps... Ah, il faut que je pense à ça, ou il faut que je fasse ça. Et tu sais, c'est des trucs que t'as pas noté ou que
Et d'ailleurs,
pas
c'est
fait,
des trucs que tu fais pas.
Exactement.
Par exemple, moi, il faut que je programme mes radiateurs pour que la nuit, la température baisse. Ça fait 3 nuits que je me dis qu'il faut que je le fasse, que je l'ai pas noté, que je l'ai pas fait.
C'est ça.
C'est bien, je vais peut-être le faire quand on termine cette interview.
Parfait.
Est-ce que tu as une source d'inspiration?
Je suis très inspirée par les sportifs, le sport de manière générale.
Tu fais du sport toi-même?
Alors, en ce moment, malheureusement, pas trop, mais fut une époque, oui, j'ai fait beaucoup de ski, notamment, et j'ai fait de la course à pied aussi. En ce moment, j'ai pas trop le temps, ou du moins, je le prends pas, mais ouais, je regarde beaucoup de sport à la télé, je regarde beaucoup de documentaires de sport. Il y a Intérieur Sport, notamment, qui est une émission de Canal+, que j'adore absolument, que c'est vraiment, ça m'inspire beaucoup, les histoires de sportifs qui ont eu... ben, des difficultés dans leur carrière ou des femmes qui ont été enceintes, qui ont eu un enfant, qui reviennent après. J'en ai vu un récemment sur Justine Dupont qui est une véliplanchiste, donc qui fait la planche à voile et qui est en train de revenir après avoir eu sa fille et qui veut aller chercher une deuxième médaille d'or au JO. Enfin, tout ça, ça m'inspire énormément. Je trouve que... Et justement, ça rejoint un peu ce côté-là que j'ai de très productif. C'est des gens, les sportifs professionnels de haut niveau... qui sont tellement...
C'est des vies réglées. J'ai interviewé Alexandra Arikia cet été, qui est multi-championne de karaté.
Ouais.
Et c'est une interview, franchement, c'est pas ma meilleure interview, parce que j'ai eu 1000 trucs techniques, mais bon, peu importe. Et c'est vrai qu'elle parle de sa discipline quotidienne, et c'est... Et puis tous les sportifs en parleront, quoi. Mais entre l'entraînement, le repos qui est planifié, la diététique, le sommeil, le truc, le machin.
Ça me fascine.
Donc ça te fascine.
Ouais, vraiment.
Cette autodiscipline, en fait.
Ouais, c'est ça. Cette autodiscipline et cette force de te dire, j'ai un projet, je mets tout là-dedans et genre, j'en démords pas du tout. Il y a aucun écart pour un sportif de haut niveau. Je trouve ça, ouais, ça me fascine. J'en suis très très loin, genre vraiment. Je pourrais pas avoir une telle discipline, je pense. J'en ai un peu à mon niveau, mais... C'est tellement poussé à outrance chez les sportifs. Et ça, ouais, ça m'inspire vraiment.
Est-ce que tu fais du batch cooking?
Je sais pas ce que c'est, le batch cooking.
Je pensais que tu serais le genre de personne à savoir. Le batch cooking, tu sais, c'est les personnes qui font leurs courses, une fois par semaine, pour toute la semaine. Et elles ont déjà tout planifié, leur repas. Et elles ont même tout préparé en portions dans leur congélateur et dans leur frigo pour que... Enfin, voilà.
Je suis pas du tout comme ça.
Ah ouais, d'accord, ok.
En fait, je suis hyper disciplinée dans ma vie professionnelle. Mais dans ma vie perso, c'est pas tout à fait ça.
Très bien.
J'y travaille dessus, j'essaye. J'essaye de m'instaurer une routine le matin, j'essaye de tout ça, mais j'y suis pas encore,
bon.
Tu vois.
Donc sachez, chers éditeurs, que Margot n'est pas encore une machine absolue.
Non, loin de là. Et je sais pas si tu vois ce bouquin aussi, Jean de la Roche-Brochard.
Ouais.
Ouais, voilà, ça aussi, j'ai écouté pas mal de podcasts qu'il a eu et il m'a vachement inspirée parce que... Il t'explique que c'est quelqu'un qui est pas forcément, qui était pas forcément très scolaire, qui était pas forcément très brillant. Et en fait, aujourd'hui, il est quand même chez Kima et il a un super poste et il est hyper organisé. Plein de choses qui ont dit m'ont pas mal inspiré aussi. Et il a une vie perso aussi, tu vois. Moi, ce que j'arrive peut-être pas forcément tout le temps à faire, mais il arrive à partir, à aller chercher ses enfants, à s'occuper de sa femme et tout. Et tout ça, je trouve ça hyper inspirant. Mais je suis pas encore à ce stade-là, j'en suis très loin.
Ouais, bon, c'est vrai que dans cet épisode, il y a beaucoup de mots-clés milieu start-up, mais peut-être que je ferai un espace dans le... Dans l'article correspondant sur le site internet, je mettrai tout le vocabulaire startup et les références du monde hashtag startup. Je vous les mets là, vous irez creuser de votre côté.
Ouais.
Très bien. Et quelle est ta dernière joie?
Ma dernière joie, c'était ce week-end. Je suis partie skier dans les Alpes. Je me suis décidée vendredi soir à 20h30. Samedi, j'ai pris le train et j'ai été skier. Je suis revenue dimanche soir à Paris.
C'était ma dernière joie. Donc, t'as skié samedi après-midi?
Et dimanche, toute la journée.
Et dimanche, toute la journée.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe?
Je porte généralement un jean et des baskets. Parce que j'aime bien être confortable quand je plaide et que j'aime bien me déplacer et être à l'aise dans mes vêtements. Et que je viens aussi souvent en vélo au palais, donc c'est quand même plus simple en jean et baskets.
Merci beaucoup Margot.
Merci Lila Louise.